je propose qu'on commence, hein, même si le public parisien est plus restreint. Ah ben voilà, il suffit de commencer pour que le public se nourrisse. On est en fait à la moitié de ce séminaire, exactement. On commence à entrer dans la seconde moitié. La dernière fois, j'ai été, je ne sais pas si je peux dire bavard, en tout cas, je n'ai pas terminé comme je l'avais prévu la séance. J'ai coupé avant la fin, il était déjà suffisamment tard. Donc du coup, j'ai réorganisé les séances, celles-ci et les séances à venir. Et d'ailleurs, au point que je pense qu'il y a quasiment matière à une deuxième année, je n'irai certainement pas au bout de ce que j'avais envisagé. Et je me suis dit, compte tenu des discussions et des courriers que j'ai reçus entre-temps, que peut-être je pouvais profiter du moment, hein, l'entrée dans la seconde moitié, pour faire le point à la fois de ce qu'on a envisagé déjà et peut-être annoncer la ligne de réflexion qui serait la mienne désormais, même si justement j'irai pas au bout de cette ligne. Donc je pense pouvoir faire cette entre-deux séance d'une certaine manière en trois points rapidement. Hein. Donc où en sommes-nous de la compréhension de l'urgence depuis la lecture d'Augustin et de Paul, premier point, et quelle est la perspective de réflexion donc que je vous propose d'essayer de suivre. Alors premièrement, pour faire le point, la comparaison augustinienne de l'olive pressée, hein, que nous avons plusieurs fois repérée et commentée, cette comparaison fait penser que l'expérience de l'urgence, bien qu'elle ait une dimension d'écrasement, hein, c'est-à-dire qu'on peut être écrasé par le sentiment de l'urgence, cependant, cette expérience, bien qu'elle ait une dimension d'écrasement, n'écrase pas pour rien, en tout cas c'est ce que veut dire Augustin dans son texte, elle n'écrase pas pour rien, en tout cas pas inévitablement, les sujets qu'elle concerne. Elle ne les écrase pas pour rien, puisque on peut attendre de l'écrasement de l'olive que précisément il en sorte une huile qui n'était pas parmi les attentes manifestes avant que l'urgence n'opère comme elle opère. L'urgence attaque la manière dont les sujets concernés se trouvent à la fois être des fruits et des aliments dans le monde, car l'olive est bien, en tant que telle, déjà cela, un fruit et un aliment. Donc l'urgence attaque des sujets qui sont déjà fruits d'une certaine manière et aliments dans le monde, qui alimentent le monde, hein, de leur existence. Mais dans cette attaque même, et d'ailleurs corrélativement, l'expérience de l'urgence ouvre à une qualité enfouie, dans certains cas au moins, elle ouvre à une qualité enfouie, pour être plus juste, une possibilité d'écoulement. Toute la question est de savoir si cet écoulement est ensuite susceptible de faire effet, à quel moment et de quelle manière. Donc ça sera, si vous voulez, le deuxième temps, la deuxième perspective de mon travail avec vous cette année. C'est une fois passé le sentiment de l'urgence, ce qui en ressort, si j'ose dire, est-ce que ça va faire de l'effet dans le monde ? À quel moment et de quelle manière. Donc ça, premier point pour résumer un petit peu ce qui a déjà été d'une certaine manière envisagé. Deuxièmement, la réponse à cette question, à quel moment et de quelle manière l'écoulement, fruit de l'urgence, est susceptible de produire de l'effet, la réponse à cette question, on l'a vu, on a commencé à le voir en tout cas la dernière fois, c'est le « comme non », l'expression étrange de Paul, le « comme non », qui en aura donné historiquement le premier élément. Je dis historiquement puisque, en fait, Paul écrit avant Augustin et que Augustin quand il prend la comparaison de l'olive, en fait, il est en train de commenter des textes de Paul. Donc, l'effet de l'urgence, le premier effet de l'urgence dans le monde, l'écoulement de l'huile par comparaison, se manifesterait, enfin, ou tiendrait dans ça, que je ne sais pas comment nommer mieux pour le moment, le comme non de Paul. Alors, cette réponse, l'homme pressé par l'urgence, l'humain plutôt pressé par l'urgence, revient au monde comme non, cette réponse ne semble pas, à première vue en tout cas, changer grand-chose, puisque, comme j'ai essayé de le dire la dernière fois, elle admet que les statuts mondains soient toujours opérants. Les hommes sont toujours des hommes, les femmes des femmes, les Romains des Romains, les Grecs des Grecs, etc., etc. Elle concerne, cette réponse, d'abord le cœur des personnes. Je reviendrai sur ce mot, je pense, ce soir. Elle concerne d'abord le cœur des personnes dont elle révèle la nature et l'existence. Hein, dans les comparaisons de Paul, l'expérience de l'urgence révèle si on est fait d'or ou de paille, et par conséquent, si on tient le coup ou bien si on est réduit en cendres. Donc, la réponse à l'expérience de l'urgence concerne, met en jeu, si vous voulez, le cœur des personnes dont l'urgence a révélé la nature et l'existence. Ce sont les qualités et l'enjeu de ce moment qu'il va me falloir, pour commencer, dans ce qui vient, examiner. Nous étudierons par la suite possible, en passant, selon une expression de Paul, du cœur, lieu qu'il définit lui-même comme étant le lieu intérieur du juste. Je reviens sur cette expression avec une citation dans un instant. Donc nous étudierons par la suite, par après la suite possible, en passant selon une expression de Paul du cœur, lieu intérieur du juste et de la justification, à la bouche, lieu d'une extériorisation où s'opère le salut et par où il pourrait en aller pour le monde d'un sauver le monde. Voilà. Donc, peut-être pour être plus clair, il y a deux temps, si vous voulez, déjà, qu'on peut envisager une fois passé l'urgence. Le premier moment, c'est la révélation du cœur de l'être concerné, et qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, hein, qui est notifié, si j'ose dire, par l'expression paulinienne du « comme non ». Et puis, ensuite, il faudrait, dans un deuxième temps, envisager le passage du cœur à la bouche, pour reprendre une expression de Paul, le cœur étant le lieu où se décide la justesse de l'être au monde, et la bouche étant, comme vous allez le voir dans une seconde, parce que je vais vous donner la citation, le lieu d'attestation. Je vous renvoie au verset 10 de l'Épître aux Romains, donc je cite, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Alors, Chouraki traduit par, je pense que c'est mieux, par « justification ». C'est en croyant du cœur qu'on parvient à être justifié, et c'est en confessant, ou Chouraki dit en attestant, de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justification, et c'est en attestant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le salut, l'être sauf, ou le sauver, peut-être par extension le sauver le monde, suppose une opération de la bouche, mais cette opération elle-même n'est, valable ou valide que dans la mesure où, dans le cœur, il se passe quelque chose ou a lieu quelque chose qui, par définition, n'est pas de l'ordre de ce qui se profère, puisque ce n'est pas de l'ordre de la bouche. Alors cette phrase que je vous ai lue, Romains 10:10, est précédée d'une autre, dans la même épître, 3:19-20, où Paul écrit, je cite, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Je pense que Paul pose dans ce texte-là que la loi de l'ordre est de fermer la bouche à l'attestation des cœurs. En tout cas, je voudrais la commenter dans ce sens-là. Donc la loi, c'est-à-dire l'ordre du monde, la loi d'ordre du monde, en général, celui qui se trouve dans l'urgence, ou qui est tel que certains, au moins d'entre nous, passent par cette expérience de l'urgence, la loi d'ordre de ce monde-là est de fermer la bouche. Je viens de vous lire la phrase, à l'attestation des cœurs. Donc évidemment, ceux et celles qui auront été concernés par l'urgence, dont le cœur, pour lesquels il se sera passé quelque chose dans leur cœur, ceux-là vont se trouver en difficulté avec l'ordre du monde, puisque au fond, il faudrait que pour qu'il y ait sauvetage, pour qu'on puisse se sauver, il faudrait attester par la bouche quelque chose qui vient du cœur. Mais en même temps, cette attestation par la bouche qui vient du cœur, il est dans l'ordre du monde de la rendre impossible, puisque l'ordre du monde, je viens de vous lire la phrase, ferme la bouche. Voilà. Bon. Donc je pense que Paul pose que la loi de l'ordre est de fermer la bouche à l'attestation des cœurs, et elle est aussi, par ailleurs, je viens de vous lire le passage, d'entretenir par ce fait même la possibilité d'incriminer formellement. Voilà. Mais en même temps, il pose la préséance du cœur sur le salut. Donc nous, c'est ça qu'on va faire. Je termine mon deuxième point, enfin qui n'est pas tout à fait un point de résumé des séances précédentes, qui est déjà une annonce de ce qui vient. Nous, il va falloir qu'on fasse le travail dans les deux temps. Dans les séances précédentes, on a examiné ce que c'était que l'urgence dans ces sources textuelles-là. Et maintenant, il va nous falloir examiner ce qui se passe au niveau du cœur et ce qui peut éventuellement se passer au niveau de la bouche, quand l'attestation affronte, dans une certaine mesure, la loi du monde. Enfin, troisièmement, pour faire le point de ce qu'on a déjà vu et de ce vers quoi nous allons, si, dans un premier temps, par conséquent, sont toujours d'actualité, ce qu'on a vu la dernière fois, si dans un premier temps sont toujours d'actualité les cadrages et les dénominations qui font l'ordre du monde, le monde se définit par des statuts qui sont nommables, hommes, femmes, juifs, grecs, libres, esclaves, etc. Bon. Si dans un premier temps sont toujours d'actualité les cadrages et les dénominations qui font l'ordre du monde, puisque on revient de l'expérience de l'urgence avec ces dénominations traitées comme non, mais quand même toujours opérante. Si, par exemple, on ne cesse pas, je reprends ce qu'on avait lu la fois précédente, d'être marié, ou pleurant, ou réjoui, ou acheteur, ou utilisateur, c'est tous les cas que Paul avait nommés dans les textes que je vous avais lus, si on ne cesse pas donc d'avoir tous ces statuts ou ces états, tout de même, ce n'est plus comme avant. Alors, pour ceux qui, entre la précédente séance et celle-ci, m'ont écrit éventuellement pour me demander de clarifier cette affaire ou cette expression, mais qu'est-ce que ça veut dire comme non, je vais prendre, avec beaucoup de précautions ce soir, une comparaison que j'ai pas choisie complètement au hasard, parce que dans une certaine mesure, j'y reviendrai, je ne sais pas, la prochaine fois ou plus tard encore, voire l'année prochaine. Je vais prendre comme comparaison, pour essayer d'expliquer un petit peu ce que peut être ce comme nom à ceux ou celles qui me l'ont demandé, je vais prendre la comparaison de la peinture des modernes. Quand la peinture passe par Manet, par Cézanne, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette peinture-là, quand elle vient au monde? C'est toujours de la peinture, et on ne peut dire que ça. c'est de la peinture. Incontestablement, c'est de la peinture. Et pourtant, elle n'est pas de la peinture comme toute la peinture déjà opérée et déjà repérée comme telle. Donc on a affaire à quelque chose qui vient au monde en étant et en n'étant pas ce qu'elle est. Donc d'une certaine manière, je pourrais dire que c'est une peinture comme non. Alors, il y va là d'un décalage qui n'est pas une sortie. Alors en disant ce que je viens de dire, je suis encore apparemment dans mes notes sur le résumé des séances précédentes. En réalité, je suis déjà dans la suite. Hein. Il me semble que dans le comme non paulinien, il y va d'un décalage qui n'est pas une sortie. De même que la peinture des modernes, si vous voulez, n'est pas sortie de la peinture, mais c'est décalé. Et c'est peut-être avec ces expressions qu'on va pouvoir arriver à penser qu'est-ce que ça veut dire sauver ou être sauf. L'enjeu pour nous, c'est de porter cette notion de décalage que je vous propose à l'instant à la catégorie la plus générale proposée par le texte de Paul. Ce qui est en cause depuis la conversion sous l'effet de l'urgence, ce n'est pas immédiatement un autre monde, mais c'est d'abord un décalage interne et non spontanément attesté des usages. Le premier temps du retour de l'expérience de l'urgence, c'est que l'être qui a vécu cette expérience va pas être en mesure de sauver le monde de façon efficace, manifeste, etc., mais va se trouver dans une situation de décalage interne qui ne va pas, puisque c'est interne, qui ne va pas s'attester spontanément dans les usages. Donc, on a la phrase mystérieuse, étrange de la fois précédente, hein, « user comme n'en usant pas ». Voilà. Bon. Alors, je voudrais, pour ma part, peu à peu instruire ou élaborer la question suivante. C'est là que je vais. Alors, je ne sais pas si je trouverai le temps d'y arriver autant que je pensais cette année, mais en tout cas, c'est dans cette direction que je vais. Je voudrais peu à peu, en m'appuyant sur les lectures dont je viens de parler et ma façon de les comprendre, je voudrais peu à peu instruire ou élaborer la question d'un faire, puisque c'était ça le sujet du séminaire, qu'est-ce que faire dans l'urgence, instruire ou élaborer donc la question d'un faire à situer plutôt du côté de la fabrication et de la technique que de l'action. Il faudra que je m'en explique. Élaborer la question de ce faire-là, à situer plutôt du côté de la fabrication et de la technique que de l'action, qui impliquerait la possibilité d'un décalage dans son opération même. Alors, c'est mystérieux, je n'en doute pas pour le moment, mais peut-être que cette formule que je viens de vous proposer, elle va travailler petit à petit, et elle me reviendra, elle vous reviendra, et nous pourrons en reparler, j'espère, de plus en plus précisément. Mon idée, c'est que, au fond, qu'est-ce que faire dans l'urgence ? Je vous proposerai d'entendre ce faire, non pas comme signifiant un agir, mais un fabriquer, d'une certaine manière, un fabriquer qui accepte d'être dans le décalage quant au faire lui-même. Voilà. Peut-être pourrais simplifier ma façon d'annoncer les choses en disant qu'est-ce que faire comme non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir un faire qui ne cesse, dans une certaine mesure, de se décaler lui-même, ou qui est alimenté par un certain décalage. Bon, je préciserai petit à petit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, dans un monde qui mène de plus en plus à l'urgence, voire qui s'y trouve au fond déjà, nous ne sommes pas dans ce faire-là. Nous ne sommes pas dans ce faire-là. C'est un faire dont peut-être, j'allais dire l'expérience, mais même peut-être seulement l'idée, n'est accessible que si on est passé par l'expérience radicale, la presse de l'urgence. Nous n'y sommes pas. Si notre monde est en état d'urgence, thèse réciproque, Si notre monde est en état d'urgence, c'est peut-être parce que justement s'y déploie un fabriqué qui assigne les opérateurs et ne supporte pas qu'ils se décalent ou qu'il y ait du décalage dans leur faire même. Alors je prends exemple, dans le monde tel qu'il est, dans l'ordre du monde tel qu'il est, qui est en état d'urgence, se déploie un fabriqué qui assigne les opérateurs, par exemple l'économie de la chaîne de production, et toute une façon de faire passer le travail à la machine, je ne sais pas comment dire ça, interdit qu'il y ait du décalage. Assigne le faire, le fabriquer, à des opérations qui ne peuvent pas s'opérer comme non, pour essayer de suivre l'expression polynienne. Le monde en état d'urgence est un monde dans lequel se déploie un fabriqué qui ne tolère pas le décalage dans la technicité même. Exemple, la centrale nucléaire, dont il vaut mieux, évidemment, que les processus ne soient pas décalés. Alors c'est ça que je voudrais, petit à petit, dans ma lecture, au fond, de Paul, mettre en cause un fer qui correspond à l'ordre du monde, ordre qui conduit, au fond, à l'urgence. Et dans ce faire, il n'y a pas de place, si j'ose dire, tout simplement, pour le moindre décalage dans le faire même, dans le fabriquer même. Autrement dit, je vais travailler désormais à l'installation progressive d'une thèse qui posera ou qui poserait qu'il est mieux d'avoir affaire à des techniques déviables, décalables, et où que c'est, à l'inverse, un certain interdit de la déviation dans la façon dont le monde nous concerne écotechniquement, qui met ce monde à mal et qui nous y met mal. C'est la même thèse dite en réciproque, si vous voulez. Je reprends ce que je viens de vous dire. Je vais travailler à l'installation progressive d'une thèse posant qu'il est mieux... Alors, on avait discuté de ça la dernière fois. Hein. Faire mieux, c'est pas faire le mieux, etc. Mais bon, je vais essayer de poser cette thèse qu'il est mieux d'avoir affaire à des techniques déviables, que, inversement dit, c'est un certain interdit de la déviation dans la façon dont le monde nous concerne éco-techniquement qui met ce monde à mal et qui nous y met mal. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je viens de vous dire ? Voilà. Alors, si ça l'est, j'ai vu quelques hochements de tête, je n'ai pas d'image du public à distance, j'espère que ça va bien, l'écran en tout cas est éteint là, je ne sais pas si c'est normal.
Oui, moi je
donc tout va bien,
il n'y a pas de remarques.
D'accord. Alors, je clôt cette phase à la fois résumée et prospective, hein, qui vous indique, j'espère, à peu près clairement ce que j'essayerai de poser de plus en plus et de mieux en mieux. Et je reprends le fil du propos que j'ai interrompu parce qu'il était tard la dernière fois. Je m'apprêtais à vous parler de la façon dont Alain Badiou lit les textes que j'ai évoqués moi-même dans les séances précédentes et qui étaient les textes que lisait de son côté, qu'avait lu de son côté Agamben. Donc, Badiou lit, je vais en parler un petit peu maintenant, de son côté, à peu près les mêmes passages de Paul qu'Agamben, qui, grâce à qui mon attention sur le comme-nom paulinien a été attirée, etc. etc. Hein, je viens de faire le résumé. Badiou trouve pour sa part, dans ces textes-là, les bases d'une pensée universelle, en ceci qu'elle ne fait pas de l'appartenance à des communautés particulières l'alpha et l'oméga de la définition des sujets. Donc ce qui intéresse beaucoup Badiou, si vous voulez, me semble, hein, plus particulièrement, c'est dans les exemples que donne Paul pour le comme-nom, c'est le fait que désormais, qui est passé par l'urgence est grec comme-nom, juif comme-nom, romain comme-nom, etc. Homme comme nom, femme comme nom. Donc, tout ça, c'est des noms pour ce que homme, femme, grec, juif, etc., sont des noms pour des communautés particulières. Et ce que Badiou lit donc, chez Paul, c'est les bases d'une pensée universelle. En ceci, je répète, qu'elle ne fait pas de l'appartenance à des communautés particulières l'alpha et l'oméga de la définition des sujets humains. Selon les passages de Paul qu'il lit, dit en substance Badiou, « Nul ne serait compris comme enclos dans la loi d'ordre de collectif. Nul humain ne serait véritablement compréhensible comme humain si on s'en tient à sa qualité d'être enclos dans la loi d'ordre d'un collectif quel qu'il soit, les hommes, les femmes, les esclaves, les limes, les juifs, les grecs, etc. Selon Badiou, nul ne serait compris comme enclos dans la loi d'ordre de collectif, eux-mêmes aptes à ne se saisir que restrictivement, identitairement ou, si j'ose dire, propriativement. Il y aurait en somme un potentiel d'universel du sujet humain qui, au fond, alors, en tant qu'il est, membre d'une communauté, il est identifié, mais cette identification restreint son humanité. En tout cas, l'écarte de l'universel humain. Voilà. Et ce qui intéresse Badiou, c'est justement le potentiel d'universel, si j'ose dire, dont, à son avis, Paul aurait été, je ne sais pas s'il faut dire, le premier penseur. En tout cas, oui, probablement, c'est ce qu'il pense, que Paul a été le premier penseur de ça. Il y aurait un potentiel d'universel. Paul aurait aperçu ça, aurait eu cette idée-là. Il y a un potentiel d'universel du sujet humain, et la dimension de vérité du discours paulinien serait d'avoir découvert cette potentialité humaine à l'universel. Donc ça, c'est la position de Badiou. Peut-être je pourrais dire, au fond, Badiou pense que Paul a découvert un universel humain était possible et en tout cas pensable, qui par définition, puisqu'il est universel, ne fait pas des identités communautaires l'alpha et l'oméga des existences subjectives. Alors ce que Badiou appelle universel, pour ma part, je dirais plutôt les textes dans lesquels Badiou lit ce que je viens de vous dire, je dirais plutôt qu'ils soutiennent l'idée d'un intérieur humain commun. Alors, je voudrais commenter cette proposition que moi je fais, autour donc de ce mot auquel je tiens beaucoup, du commun. Plutôt que universel, si vous voulez, pour que les choses soient claires. Je dirais donc plutôt que le discours paulinien soutient l'idée d'un intérieur humain commun. Alors c'est un intérieur. Parce que Paul lui-même le dit tel. Je vous lis Corinthiens 2,16. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc c'est clair qu'il y a une distinction entre extérieur et intérieur. Il y a un homme extérieur et un humain extérieur et un humain intérieur. Et cette distinction ou cette intériorité a sûrement à voir avec le courage. Hein, la phrase le laisse entendre. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. J'avais cité au commencement de ce séminaire, parmi mes références bibliographiques, le livre d'Olivier Boulnois, Saint-Paul et la philosophie. Et Boulnois cite également ce passage de l'Épître aux Corinthiens, et signale que l'expression homme intérieur se trouve chez Platon. Voilà. Et donc il en déduit qu'il y a quelque part une dimension platonicienne de Paul. Je ferme cette petite parenthèse et donc je reviens à ma proposition de dire que le discours paulinien soutient l'idée d'un intérieur humain commun. Donc c'est un intérieur, puisque, comme je viens de vous le dire, Paul le dit. Bon. C'est un intérieur aussi parce qu'il se métaphorise, comme nous avons vu déjà dans le terme d'un cœur, hein, pas la bouche mais le cœur. Bon. La bouche, évidemment, ce qui va extérioriser quelque chose. Mais d'abord, il faut regarder ce qui se passe dans le cœur, et c'est même là que le juste se trouve, ou la justesse, disons, se trouve résider. Donc il y a un intérieur, parce que l'intérieur humain commun, hein, c'est un intérieur parce que Paul le dit-elle, parce qu'il se métaphorise volontiers dans les textes dans le terme d'un cœur, et parce que cette métaphore même du cœur implique une notion de la personnalité dont le rapport originel au masque porté par l'acteur sur scène suppose évidemment l'existence d'une dimension intérieure. Mais cet intérieur humain, il est commun. Les textes de Paul, invitent à penser un intérieur humain, donc un intérieur humain, ils invitent à penser qu'il y a un intérieur humain, si vous voulez, et en même temps que cet intérieur humain est commun, pour cette raison, me semble-t-il, qu'il n'y a pas d'appellation particulière qui lui convienne, ou qui ne puisse, comme le dit de son côté Agamben, je vais insister sur cette expression, être révoqué. Ce qui revient à dire que les procédures de subjectivation ne sont pas absolues et qu'il y a toujours un reste à leur opération. Ce que les phrases de Paul, où arrive la petite formule comme non, au fond, disent, c'est qu'il n'y a pas d'appellation. Je vous le redis avec un peu ce vocabulaire trouvé chez Agamben, il n'y a pas d'appellation qui ne puisse être révoquée intérieurement, au moins pour commencer. Voilà. Ce qui revient à dire que les procédures de subjectivation dont l'ordre du monde est le tenant, il n'y a pas de monde qui puisse être ordonné, notamment en communauté particulière, sans qu'il y ait de la subjectivation. Mais cette subjectivation n'est pas absolue, il y a un reste à leur opération, cet intérieur humain commun, ce que je vous propose d'appeler intérieur humain commun. Alors, pour essayer de... Je ne sais pas si ça va clarifier, en tout cas, pour cette raison, et me rappelant par ailleurs de Simone Veil, je vous avais lu le passage, affirmant... Je cite « qu'un esprit enfermé dans le langage est en prison ». Je lirai, du verbe « lier hein, », je lirai volontiers le commun dont j'essaye de vous parler ce soir, l'intérieur humain commun, plutôt commun que universel dans mon langage. Je lirai volontiers ce commun, ce banal, en français on dit ça aussi, commun, banal, sont des mots qu'on peut rapprocher sémantiquement les uns des autres, le non-illustre intérieur, c'est pas au vu et au su, voilà, c'est pas illustre, c'est pas dans la lumière, dans le lustre, voilà. Donc je lirai volontiers tous ces mots, le commun, le banal, le non-illustre et le révocateur intérieur, si je suis... les mots que me propose Agamben, c'est un révocateur intérieur, puisque c'est là que se tient l'énoncé, enfin, si cette façon de dire convient, c'est là que se tient le comme-non, la possibilité d'être comme-non. Hein, donc c'est un révocateur intérieur. Je suis toujours homme, femme, juif, grec, etc., mais comme-non d'abord intérieurement. Voilà. Donc il y a une révocation intérieure, et c'est ça qui définirait, c'est ça que j'essaye de vous dire, le commun, le banal, même si, en même temps, le commun, le banal, par définition, n'est pas illustre. la capacité, je ne sais pas si ce mot convient, il n'est pas sur mes notes, de révoquer les appellations qui, grâce auxquelles les communautés particulières sont en ordre, la capacité de révoquer l'ordre des communautés, c'est une capacité intérieure qui est commune, banale, par définition non illustre, et en mesure de révoquer. Alors, comme Simone Veil m'a glissé cette expression, un esprit enfermé dans le langage est en prison. Voilà. Je me demande si je ne peux pas rapprocher tout ce que je suis en train de remuer. Vous allez voir, j'espère que ça va être plus clair dans quelques minutes. Si je ne peux pas rapprocher ce que j'essaye de vous dire d'une analyse de Merleau-Ponty, posant en substance que la capacité des paroles à modifier les langues n'est pas compréhensible si on en fait une propriété incluse dans le champ de ces langues telles que déjà parlées. En fait, je vais essayer de vous faire penser que l'intérieur commun que j'essaye de décrire ce soir, il suppose... je veux dire les choses autrement. La bouche, c'est par quoi on parle. La parole, ça suppose de passer par une langue. La langue, c'est l'extérieur. Je simplifie beaucoup les choses, mais je pense qu'il le faut... La langue, c'est l'extérieur, et la parole, c'est ce qui vient du cœur, en l'occurrence, le cœur ayant la capacité de révoquer. Je tiens à penser cette capacité comme commune, pas universelle, mais comme commune. Bon, alors restons un tout petit peu, si vous voulez, dans la référence à Merleau-Ponty. Les langues nous obligent. Par leur structure extérieure à parler d'une certaine manière, mais la parole elle-même, elle procède d'un cœur qui est peut-être commun et qui n'est pas enfermé a priori dans les langues. Voilà. C'est ça qui intéressait Merleau-Ponty, se poser la question de savoir comment se fait-il qu'on ne fait jamais que parler dans une langue telle qu'elle est déjà structurée. On ne peut pas parler autrement que dans une langue telle qu'elle est déjà structurée. Et pourtant, petit à petit, les langues évoluent. Il faut donc penser qu'il y a une capacité de la parole, alors je ne sais pas comment dire ça, à modifier, à décaler, à dévier les langues. Ça ne s'aperçoit au fond jamais. Et cependant, ça travaille, ça ne cesse de travailler les langues. Et la question de Merleau-Ponty... c'était de savoir d'où ça procède, cette capacité de la parole à modifier la langue. C'est-à-dire, je viens de vous décrire une expérience du comme-non. Je parle la langue, si je parle vraiment. C'est-à-dire, si je reprends des discours tout faits, pas si je communique seulement, si je parle vraiment, je travaille la langue et je me tiens dans la langue comme non. Voilà, je me tiens, il y a un jeu qui se tient dans la langue comme non. Alors, comment penser ça? Alors, ce que disait Merleau-Ponty, c'est que la parole, dans sa capacité à modifier, à décaler, à dévier les langues, la parole proviendrait... je le cite, d'un certain vide en soi à combler par des mots. Alors, c'est un texte qui se trouve dans Signes. En fait, il y a deux occurrences de ce texte de Merleau-Ponty. Bon, je vous donne celle qui est dans Signes, édition Gallimard, page 89-90. L'intention significative en moi, comme aussi chez l'auditeur qui la retrouve en m'entendant, naît sur le moment, et même si elle doit ensuite fructifier en pensée, qu'un vide déterminé à combler par des mots. L'excès de ce que je veux dire sur ce qui est ou ce qui a déjà été dit. Dans un autre livre, qui évoque à un moment donné Merleau-Ponty, de Claude Romano, « L'événement et le monde ». J'ai trouvé cette citation que je suis ensuite allé rechercher à la source dans « Le visible et l'invisible ». Merleau-Ponty écrivait ceci, « Je, vraiment, c'est personne, c'est l'anonyme, il faut qu'il en soit ainsi, pour être l'opérateur ou celui à qui tout cela advient. » Voilà. J'aurais presque pu mettre ça en exergue de la séance. « Je, vraiment, c'est personne, c'est l'anonyme, il faut qu'il en soit ainsi, pour être l'opérateur ou celui à qui cela tout advient. » Pour qu'il advienne quelque chose à je, à moi. Pour qu'à je, il advienne quelque chose. Pour même que ce je soit un opérateur, hein, il faut qu'il soit personne, entendez ça comme vous pouvez, et ou anonyme. Hein. En tout cas, je trouve ça dans le propos de Merleau-Ponty. Hein. Et... je le rapporte à cette phrase qui me tient depuis mon extrême jeunesse, hein, un certain vide en soi à combler par des mots. Alors je voudrais poursuivre, parce que, en fait ce que je vais essayer de vous faire penser, c'est que le cœur du sujet, qui n'est jamais totalement subjectivé, hein, le cœur... c'est ce vide. Le cœur de l'humanité, c'est ce vide dont j'essaye de vous parler, et c'est ce vide qui nous fait parler, vraiment, et qui nous fait être des opérateurs dans le monde, et pas seulement des sujets subjectivés, ordonnés, si vous voulez, par le monde. Voilà. Donc, ce vide de langue... Et Simone Veil, dans ce vide de langue, hein, si je suis la phrase que je rappelais tout à l'heure de Simone Veil, disant que je suis en train de la rechercher sur mes notes et je ne la retrouve pas, un esprit enfermé dans le langage est en prison, hein, donc dans ce vide-là, le sujet est libre. Hein, mais. Il n'est pas dans le langage. Voilà. Et c'est quand même ça qui va le faire parler. C'est quand même ça qui va faire passer quelque chose par la bouche, pour reprendre tout le régime de métaphore de ce soir. Donc le vide de langue, qui ne s'atteste que par traduction dans une parole située, je le pose comme le plus profondément commun aux humains. Voilà. Le plus profondément, profondeur intérieure, le plus profondément commun aux humains, c'est, ce ne sont pas, c'est pas le fait d'être des animaux parlants, si vous voulez, c'est au cœur, ce vide de langue qui nous fait le plus profondément commun les uns des autres. Nulle communauté déclarée et s'appelant dans une langue qui, par définition, n'est pas commune. Les langues ne sont pas communes. Nous sommes un certain nombre à avoir pour langue le français, mais pas toute l'humanité a pour langue le français, etc. Vous pouvez prendre ça pour chaque langue. Hein. Il n'y a pas de langue qui soit absolument commune. Ce qui serait absolument commun, c'est ce certain vide en nous, en chacun, à combler par des mots. Nulle communauté déclarée et s'appelant dans une langue par définition non commune mais seulement communautaire ne peut par conséquent y tenir et y trouver son fondement. Au vide commun de chacun, les communautés dans leur loi d'ordre ne peuvent pas tenir ni y trouver leur fondement. Elles sont plutôt les communautés travaillées ou comme disait aussi Merleau-Ponty, appareillé depuis ce cœur-là commun de l'humanité, banal, pas illustre, intérieur, etc., etc. Autrement dit, il me semble qu'il y a inévitablement tension entre le commun, quand il engage son attestation dans une parole, et ce que savent déjà dire les communautés. Alors, est-ce que ça va à peu près ce que je vous dis ? Bon, je vais faire un pas de plus. Je suggère de définir ce commun, si je suis arrivé à en faire entendre l'idée à peu près correctement, je suggère de définir ce commun non communautaire comme lieu éthique. Et je vais définir à ma façon éthique. De quoi s'agit-il avec ce mot éthique ? Alors, non pas pour moi d'un espace de prescription morale. Alors, je pense que nous sommes... Enfin, je pense que ce n'est pas si vieux que ça. Nous sommes, je veux dire, abondamment, le mot éthique se prononce autour de nous, et je pense qu'il lui est fait mal presque à chaque fois qu'on le dit, parce qu'on le confond, en fait, avec morale. Hein, c'est-à-dire, j'ai des valeurs éthiques, etc. Donc, je voudrais... Quitte à me séparer du courant du monde, vous proposer une définition stricte, en tout cas pour moi, de éthique. Éthique, ça n'est pas un espace de prescription morale, mais je dirais, en reprenant une formule de Kornansky qui m'a toujours intéressé, c'est l'espace d'une résonance intérieure. Résonance intérieure, qui ne peut effectuer son opération, raisonner, faire écho, ébranler un phrasé, ébranler les phrases toutes faites, hein, des langues comme elles se parlent extérieurement. Voilà. La résonance intérieure, l'éthique, l'espace de résonance intérieure qu'est l'éthique, ne peut effectuer son opération, raisonner, errer, faire écho, ébranler un phrasé, qu'à supposer, en effet, l'existence foncière d'un espace vide non comblé. Hein, la résonance intérieure, cette métaphore que j'ai trouvée chez Kandinsky, il n'y a pas de résonance dans un espace plein. Il faut que ça soit vide. Il faut que ça soit vide. Si un sujet peut être éthique, c'est que dans son repère le plus intime, repère P-A-I-R-E, alors je signale que repère est une valeur étymologique, enfin ancienne de ethos, de éthique. Si un sujet peut être éthique, c'est que dans son repère le plus intime, il ne se trouve a priori nul mot d'ordre particulier, nulle phrase déjà dite pour lui ou à sa place. Dans ce repère, le sujet éthique n'est plus qu'un soi indéterminé, non décidé, ou si vous préférez, a priori indécis. C'est-à-dire que l'expérience éthique, profondément éthique pour moi, c'est l'expérience de l'indécision du sujet, de l'indétermination du sujet. Il n'y a pas de phrase là déjà pour me dire quoi faire. Dans ce repère qu'est l'espace éthique, le sujet n'est plus qu'un soi indéterminé, non décidé, indécis a priori. Il n'y a donc pas là de recommandation extérieure. Et si chacun n'y sait pas d'emblée quoi dire ni quoi faire, justement, c'est à déterminer. Et l'opération éthique est cette détermination engagée depuis une irrésolution a priori. Si donc chacun ne s'y trouve pas en tant que, hein, dans la profondeur éthique, dans le cœur éthique de l'être que je suis, je ne suis pas en tant que homme, femme, etc. Il n'y a pas de mot, c'est un vide en moi à déterminer par un mot, à décider. Voilà. Si donc chacun ne se trouve pas dans son repère éthique en tant que, cependant, c'est ma thèse, chacun peut y être autant que et semblablement à tout autre. C'est pour ça qu'on est commun. C'est pour ça que dans ce repère éthique, dans le vide où ça résonne, où il n'y a pas de détermination a priori, où il n'y a que de l'irrésolution a priori, c'est en tant que tel que nous sommes autant être les uns que les autres et semblablement être les uns et les autres. Bref, c'est dans un silence intérieur, il n'y a rien de dit à l'avance. C'est dans un silence intérieur que réside le plus commun des personnalités, quand bien même, ordinairement, ces personnalités ne s'y rendent pas. Ou bien, je pourrais dire aussi, quand bien même, elles ne s'en rendent pas compte. Voilà. Bon, j'essaye de dire, finalement, nous ne nous rendons pas assez au silence intérieur, à cet espace profondément intérieur dans lequel rien n'est dit à notre place. Voilà. Alors, j'ajoute, non sans hésiter, si vous le permettez, une dernière précision. Le mot commun ne désigne ordinairement rien d'illustre, rien de célèbre, rien qui se mette au devant. Mais selon une part de son étymologie la plus ancienne, le mot commun résonne aussi avec le muant. Hein, le main de commun, la même source archaïque que muant, mouvant, muant, mutant, muant. Je suis donc en train de vous faire une double proposition. Je vous propose d'admettre, au fond, deux choses. La première, que la découverte du champ éthique du sujet suppose une aventure personnelle, un accident de et pour la personnalité, qui ébranle la sorte de sujet qu'elle se sait déjà être. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je comprends l'expérience de l'urgence et le comme-nom paulinien. Il est arrivé, il m'est advenu quelque chose qui m'a écrasé, enfin, etc., dans l'état où j'étais, hein, de sujet mondain, etc. C'est ça que, j'appelle dans ma phrase à l'instant un accident. Hein. Il y a un accident qui m'a mis, au fond, au cœur de moi, si cette expression convient, elle convient pas tout à fait, mais enfin bon. Donc c'est la première chose que je suis en train de soutenir devant vous. La découverte, c'est ça que fait l'urgence. Le passage par l'urgence découvre le champ éthique du sujet pour lui-même. Si cette expression convient, parce qu'en fait, il n'est plus lui-même. Hein, il n'est plus, en tout cas, comme avant. Il y a découverte d'un champ éthique à l'issue d'une tribulation, on avait vu ça dans la première séance, hein, d'une aventure personnelle, d'un accident de et pour la personnalité, accident qui ébranle la sorte de sujet qu'elle se sait déjà être et qui, au fond, met en branle un autre sujet dans le sujet. J'ai mis en note ici comment ne pas penser à la formule de Rimbaud « Je est un autre ». Voilà. « Je est un autre ». L'expérience de l'urgence telle que je la comprends, dans le premier temps du retour, si vous voulez, à partir de cette expérience, le second temps, ça sera « Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Voilà. Mais premièrement, étudions, réfléchissons à ce qui se passe, pour le dire simplement, du côté du sujet ou du supposé sujet. Voilà. Eh bien, il découvre une dimension de sa personnalité, l'intérieur, le cœur, son cœur, voilà, à quoi il n'était pas voué, dans une certaine mesure, par son assise dans l'ordre du monde. Et la tribulation, l'accident, l'expérience de l'urgence ébranle la sorte de sujet qu'il se savait être déjà et finalement met en branle un autre sujet dans le sujet. Et il est désormais sujet comme nom. Voilà. La conséquence ultime est de mettre le « je », « je », en tension avec son arrangement et ses accommodements. Une fois que vous vous êtes découvert comme sujet éthique, au sens que j'ai essayé de dire, que vous êtes, comment dire, j'allais dire, tomber dans le commun le plus profond de l'humanité, le plus banal, le plus le moins illustre, le moins célèbre, le moins célébré, enfin tout ce que vous voudrez de ce type, vous êtes en tension avec les arrangements et les accommodements qui vous définissent ou qui vous définissaient comme sujet social. C'est pas que vous n'êtes plus un sujet social, c'est que vous êtes en tension avec vos accommodements de sujet social. C'est ça l'autre sujet dans le sujet. Voilà. Donc je suis en train de poser ça, l'advenu à la suite de l'expérience de l'urgence d'un autre sujet dans le sujet. Et puis, je suis en train aussi d'essayer de vous dire que depuis cette sorte de découverte, ce jeu mue, hein, il est commun avec ce que ça veut dire de possibilité de muer. Voilà. Il peut, le sujet qui est devenu un autre, voilà, il peut au moins partiellement se révoquer ou se dévouer. Alors, dévouer, je l'écris avec un trait d'union. Hein, se dévouer. Je me suis d'ailleurs demandé qu'est-ce que c'était au fond que se dévouer. Qu'est-ce que ça veut dire, se dévouer ? Voilà. Ben, ça veut dire d'abord se dévouer. Dans vouer, il y a vouer. Dans dévouer, il y a vouer, vocation, etc. Hein. Et l'expérience de l'urgence, telle que je la comprends à partir des textes de Paul en particulier, ouvre la voie pour un sujet qui se dévoue. Alors, qui se dévoue, il va se dévouer au sens banal du mot, c'est-à-dire il va faire quelque chose dans le monde, nous en parlerons dans une prochaine séance, mais dans un premier temps, il se dévoue, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas dans les appellations qui proviennent des communautés particulières, etc., etc. Et donc il mue. Voilà. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement hors, enfin, mise en tension avec les vocations ordinaires qui permettent d'opérer ordinairement dans le monde. Donc je suis en train d'essayer de vous dire ça, que depuis l'expérience de l'urgence, le jeu, J-E, mu, il peut au moins partiellement se révoquer ou se dévouer, en peine de se trouver juste, à la fois justifié et ajusté dans les statuts et les appellations qui lui sont proposées, et d'où des propositions lui sont faites, il dévie dans son orientation. Avant l'expérience de l'urgence, j'ai pas de problème avec le monde, je veux dire, je me trouve juste, justifié et ajusté dans les statuts et appellations qui me sont par ce monde proposés. Je trouve ma place dans les propositions que le monde m'adresse. Une fois passée l'expérience de l'urgence, je ne suis plus, je ne me trouve plus juste et ajusté dans ces propositions du monde. Voilà. Par conséquent, je suis en déviation avec les orientations que le monde me propose, et c'est dans ce sens que je me dévoue. Voilà. Alors voilà ce que je voulais dire ce soir, et je voudrais en tirer 5 remarques. Est-ce que, avant que je fasse ces 5 remarques, vous souhaitez que je précise quelque chose, parce que je pense que c'était assez rude à entendre, tout ça. Non. Non. À côté caméra, je ne sais pas, j'ai pas d'image.
Il n'y a pas de message.
Bon, alors je continue. Mm-hmm. Alors, ce sont des remarques. Hein, c'est-à-dire. C'est pas exactement le fil d'un raisonnement. Bon. Ça serait, si j'étais un peu cavalier, je dirais, ah bah tiens, ça me fait penser à 5 choses. Bah, je vous les donne. Voilà. Dans un certain ordre. Il faut bien commencer par une. Mais bon. Alors, premièrement, je tâche de faire de la place ici à la façon dont les textes de Paul jouent avec la valeur du juste, jamais loin de signifier chez lui la justification. Dans les textes de Paul, on trouve qu'à la fin des temps, les justes seront ceux dont la conduite se trouvera justifiée. Donc je tâche de faire de la place à la façon dont ces textes jouent avec la valeur du juste. Qu'est-ce que c'est que le juste, la justification ? Et en même temps, je suggère que le commun n'est pas ce qu'il faudrait faire ou construire, comme s'il devait résulter d'une soudure à réaliser entre des communautés. Le juste, la justification, enfin ce qui justifierait, si vous voulez, un faire, ça n'est pas, parce qu'on pourrait le penser, de souder les communautés particulières. Voilà. Je pense qu'on va trouver autre chose comme orientation dans les textes de Paul que nous lirons dans les séances ultérieures. Je suggère donc, je vous propose de réfléchir à cette idée que le commun n'est pas ce qu'il faudrait faire ou construire, comme s'il devait résulter d'une soudure à réaliser entre des communautés. Alors pourquoi je dis soudure ? Eh bien parce que je termine la lecture d'un livre d'Isabelle Stengers, « Civiliser la modernité », dans lequel elle fait... C'est un livre qui concerne la philosophie de Whitehead, et elle fait un sort à ce mot-là. Hein, le fait que la tâche, au fond, qui serait devant nous aujourd'hui, ça serait de nous souder peut-être mieux, en tout cas de réaliser une soudure, soit entre les communautés, soit entre les facultés, l'imagination et la raison, par exemple. Bon. On pourrait dire ça, finalement. C'est ça qu'il faudrait que nous fassions, que nous soyons davantage soudés que nous ne sommes. Donc je suggère, moi, que le commun n'est pas ce qu'il faudrait faire ou construire comme s'il devait résulter d'une soudure, comme le dit en substance Isabelle Stengers et par extension Bruno Latour, qui ne manque pas de faire usage d'expressions comme celle-ci, « faire commun », ou qui pense ce « faire commun » comme une composition, c'est Bruno Latour, à réaliser à partir des bruissements propres aux états de communautés diverses. Hein. Autrement dit, j'essaye de vous proposer une définition du commun qui n'implique pas ce que je lis là, chez Stengers ou chez Latour, l'idée que le commun, c'est ce qu'il faut faire, comme un résultat qu'on obtiendrait, par exemple, par soudure, pour reprendre la métaphore de Stengers, des communautés particulières. Non, je pense plutôt, même si certainement c'est assez, comment dire, je me sens assez seul dans cette proposition, je pense que le commun, c'est pas autrement dit à construire. Ce que je vous ai dit depuis, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure, à propos du commun, le repère éthique, enfin, etc., le certain vide en soi, le fond du cœur, bon. Le commun, ce n'est pas ce qu'il faut produire, d'une certaine mesure, comme un résultat, c'est ce qui peut être trouvé par déblayage, le vide. Il faut faire le vide, il faut aller au vide. Voilà. C'est ce qui peut être trouvé par déblayage, je veux dire, dès lors que la personnalité s'est trouvée par accident, déblayée des éléments de sa propre construction. Le commun... C'est ce que nous pouvons trouver en déblayant les éléments qui ont permis aux personnalités de se construire et, en tant que telles, des personnalités construites, de s'intégrer, comme on dit, à des communautés particulières. Voilà. Cela fait écho aux raisons qui m'ont fait commenter, je crois que c'était il y a trois séances, je ne sais plus, comme je l'avais fait, la signification de « épi » dans l'épitumos platonicien. « Tumos », c'est le cœur, « épi », c'est ce qu'on a sur le cœur. Et ce mot « épitumos » est généralement traduit par « désir », et ça ne me convient pas, parce que je pense que l'épitumos, c'est les couches qui sont sur le cœur, et qui mettent les humains, c'est ma lecture de Platon en tout cas, dans une relation d'envie les uns à l'égard des autres. On est envieux. J'avais parlé de ça, la distinction entre l'envie et le désir, à mon avis. Hein. L'épitumos, les envies qui sont finalement, je sais pas comment dire ça, des désirs socialisés. Enfin bon, ça ne touche pas au cœur même du désir. Et peut-être que l'enjeu, c'est je dis, de déblayer, c'est-à-dire tout ce qui est venu se superposer, se sédimenter autour épitumos du cœur, il faut le déblayer. Voilà. En tout cas, je pense que je propose de réfléchir à cette idée-là. Penser le commun non pas comme une construction à venir, mais comme quelque chose qui est au fond déjà là, mais auquel on ne peut accéder que par un certain déblayage des personnalités telles que construites. Cette proposition que je fais fait valoir aussi, je crois, comme nous étant la plus commune, la situation de l'infance, hein, infance qui ne parle pas, qui n'est pas dans le langage. C'est peut-être la situation la plus commune de l'humanité, c'est la situation de l'infance. Quand on n'est plus infance, on est foncièrement commun, mais il y a une espèce de superstructure, des couches de personnalité construites qui font que, par exemple, on est rentré dans une langue, la française ou l'allemande ou l'anglaise ou l'italienne ou ce que vous voudrez, et pas dans une autre. Mais en tant qu'on est infantile, on est commun. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et au fond, c'est déblayer tout ce qui est venu se construire sur l'infantilité et qui nous empêche d'être à ce qu'il y a de plus commun pour nous et entre nous. Voilà. Donc il me semble que ce que je vous ai dit ce soir peut faire valoir comme étant la plus commune la situation de l'infance démunie, y compris de langage. C'est justement la sortie de l'état proprement infantile qui, tout en nous construisant comme êtres sociaux, tout en nous apparentant ou en nous soudant à des communautés, nous sépare. Ce qui sépare l'humanité, les humains, c'est la sortie de l'état proprement infantile. Alors je ne dis pas que cette sortie soit évitable, je dis pas ça, hein. Mais le fait est que la séparation de l'humanité, elle se lie à la sortie de la situation infantile, si le mot « sortie » convient, en tout cas au fait que cette situation est couverte de constructions, si vous voulez, qu'on dit personnelles et qui sont en même temps sociales. Nous sommes communs, autrement dit, à chaque fois que les mots pour dire ne sont pas déjà là pour nous, voilà, à chaque fois que je ne trouve pas, que je n'ai pas les mots pour dire « je suis comme » infance, je suis un adulte comme non. Hein. Dans le manque de mots pour dire ce qui me tient à cœur, je suis commun. Je suis commun. Voilà. Nous sommes communs à chaque fois que les mots pour dire ne sont pas déjà là pour nous, et quand nous nous trouvons, d'une manière ou d'une autre, comme les naïfs, nativus, qui vient de naître. C'est en tant que nous sommes naïfs et que nous pouvons encore être naïfs que nous sommes communs. Voilà ce que je vous propose de penser. Nous sommes communs à chaque fois que les mots pour dire ne sont pas déjà là pour nous, et quand nous nous trouvons, d'une manière ou d'une autre, comme les naïfs, comme les enfants, démunis, sans munitions. Pour le dire autrement, ce n'est pas la faiblesse native qui divise l'humanité, mais le renforcement de la personne sociale et, par conséquent, la force et la détention d'un pouvoir. Ce qui divise l'humanité, c'est... Je suis enregistré, c'est toujours finalement assez stressant parce qu'après ça reste et j'essaye des phrases et peut-être si je réécoute tout ça, je me dirais qu'il faut que j'en retire quelques-unes. Mais bon, Je dirais au fond que plus on entre dans l'ordre d'une société ou d'une communauté particulière, moins on est commun. Voilà. Plus on renforce sa position personnelle, moins on est commun. Nous sommes communs en tant que démunis, pas forts. C'est le statut de l'asthénie, asthénia. J'avais mis ça en exergue de tout le séminaire, une phrase de Paul qui parlait de l'asthénie, de la faiblesse. Nous sommes communs en tant que nous ne sommes pas forts. Voilà. En tant que nous pourrions ou pouvons accéder à quelque chose comme de la naïveté, qui que nous soyons, nous sommes communs. Voilà. Inversement, ce sont les avoirs, les équipements, les munitions, et parmi tout cela, la maîtrise des significations qui séparent et qui défont le commun. J'ajoute que ce ne sont pas les communs qui déclenchent les guerres, mais ceux qui tiennent, qui sont les tenants de telle ou telle communauté. Ce n'est pas les naïfs, ce n'est pas les enfants qui déclenchent les guerres, ce n'est pas les démunis, etc., etc. C'est en tant qu'il y a de l'avoir, de l'équipement, de la munition, et que, comment dire ça, il semble qu'il faille défendre tout ça, que des guerres peuvent se déclencher. Bon, je ne fais pas de dessin. Je pense que vous pouvez comprendre... au fond, les guerres se font toujours au nom d'une communauté particulière. Voilà. Une communauté particulière, et ce ne sont pas les communs. C'est les communs en tant qu'ils sont, enrôlés dans des positions particulières, qui ne sont par définition pas communes. Je ne sais plus comment je vais commencer ma phrase. Enfin, en tout cas, c'est dans cette situation-là qu'il y a de la guerre. Bon. Deuxième remarque. Alors, c'est une question qui me travaille depuis quelque temps. Au caractère non illustre ou banal, commun, de l'espace de résonance intérieure, le cœur de l'humanité, au commun, par conséquent, est-ce que ce n'est pas ce à quoi l'homme d'État ou d'empire est fermé ? Donc je me suis demandé, en méditant comme j'ai fait sur le commun, l'homme commun, si vous voulez, au fond, je me demande si dans ma... Je ne sais pas comment dire ça, dans mes... ma façon de penser les choses, je me demande si je n'oppose pas l'homme commun à l'homme d'État. Voilà. J'avais commencé à interroger la figure de l'homme d'État dans De l'un à l'autre, mon livre de l'un à l'autre. Je pourrais, pour faire référence à un ouvrage que j'avais cité lors de la première séance de ce séminaire, parler aussi du bédouin chez Ibn Khaldoun, ou du conquérant ou du guerrier dans le commentaire que fait Gabriel Martinez Gross des textes de Ibn Khaldoun, hein, qui sont des textes du 14e ou 15e siècle, si je me souviens bien. Le bédouin, le conquérant, le guerrier, l'homme d'État. Voilà. Ils ne sont pas communs. Ils ne sont pas communs. Ils sont fermés au caractère non illustre, banal, du commun. Voilà. Peut-être aussi je peux dire que l'homme d'État n'est pas dans le commun, c'est pas un homme commun. Il n'est pas dans le commun, et même, il n'entend pas, ou seulement très péniblement, les attestations du commun. Voilà. Je ne fais pas de dessin là non plus. Je pense que nous sommes dans une situation dans laquelle il est clair qu'il y a d'un côté des hommes d'État et de l'autre des communs, et que les attestations du commun ne s'entendent pas du côté des hommes d'État. Voilà. Ou alors, il faut qu'ils fassent un sacré effort sur leur propre construction, sur ce qui les a construits et placés comme hommes d'État. Donc je m'interroge sur cette, je ne sais pas s'il faut dire figure, je crois que oui, mais bon, l'homme d'État. Ce n'est pas évidemment que l'homme d'État. Alors, je dis homme. En fait, il faudrait que je dise l'humain d'État, hein, puisque malheureusement, là aussi, il faut maintenant mettre aux deux genres. Donc ça n'est pas que l'homme, l'humain, si vous voulez, dans l'homme d'État, soit inaccessible à l'expérience intérieure, c'est qu'en tant qu'il est homme d'État, non pas seulement et banalement homme, mais bel et bien homme d'État, il tient, il adhère, il colle aux motifs qui font qu'une communauté particulière tient elle-même. L'homme d'État, c'est celui qui tient aux motifs de la communauté qu'il défend. Voilà. Et en tant qu'il tient aux motifs de la communauté qu'il défend, et qu'il est homme d'État pour ça, il doit, il ne peut pas ne pas se fermer au commun. Il adhère, il colle au motif, et c'est peut-être pour ça qu'il est homme d'État. Il colle, il adhère, il tient au motif et aux subjectivations que la communauté dont il est le tenant ordonne, et qui ordonne cette communauté. S'il décide, l'homme d'État, d'opération, si même il en risque, c'est dans la ligne de cette ordonnance et pour que se perpétue l'essentiel de ce qui la justifie. Alors, je renvoie, pour davantage de méditation, au personnage de Créon, dans l'antique pièce de Sophocle, et pour la lecture que je fais de ce personnage, si vous permettez, donc, à mon livre De l'un à l'autre. Mais je pense aussi au livre fameux de Kantorowicz, de 1957, « Les deux corps du roi », livre dans lequel Kantorowicz étudiait la doctrine de la double nature du corps du roi élaborée au Moyen-Âge dans une perspective christologique et théocratique. Cette doctrine implique que la souveraineté soit incessante et, en dernière analyse, surhumaine. La souveraineté du roi, elle est surhumaine en ce sens qu'elle ne... Il y a un corps du roi. Il y a un corps mortel du roi, qui est l'homme banal, mais il y a l'autre corps du roi qui est immortel. Il n'y a pas de rupture dans le pouvoir. Voilà. Et l'homme d'État est celui qui est dans ce fil-là, dont la souveraineté interdit qu'il se rompe. Voilà. Donc, la doctrine des deux corps du roi implique que la souveraineté soit incessante et, en dernière analyse, surhumaine. Immortelle comme le divin, elle ignore le vide, elle est constamment en plénitude. Est homme d'État celui qui fait prévaloir en soi la continuité sans faille du droit. Le droit peut être réformé, mais pas rompu. En tant que tel, non pas humain, mais souverain, l'État, l'homme d'État, ne peut errer. C'est une formule qu'on a retrouvée. L'État ne peut errer. Voilà. En tant que souverain, et donc non humain, et sûrement pas naïf, etc., l'homme d'État ne peut errer. Il ne peut s'estimer lui-même comme errant, vide ou discontinu. Le commun, au contraire, est faillible. Le commun tel que j'essaye de le penser, au contraire, il erre, il est vide, il est discontinu, etc. Il est faillible. Ou pour le dire dans l'autre sens, et peut-être mieux, la faillibilité du commun est ce que refuse l'homme d'État. La faillibilité du commun qui tient au fait que le commun, profondeur éthique, n'a pas de prescription. En tant qu'il est commun. Il est par conséquent faillible, bien entendu. Voilà. C'est-à-dire, ce qui va sortir de l'expérience éthique, on ne sait pas. On ne sait pas a priori. Voilà. Ce vide, cette ignorance de ce qui va sortir, etc., la continuité de l'État, et partant l'homme d'État en tant qu'il est le tenant de cette continuité, ne peut pas se la permettre. La faillibilité du commun est ce que refuse l'homme d'État. Elle est intolérable pour lui. Voilà. Et si l'homme d'État peut aller, comme on l'a vu en maintes occasions, hélas, jusqu'à l'extermination, c'est qu'il ne supporte pas, en tant qu'homme d'État, qu'on puisse, même seulement en son cœur, le révoquer, lui, l'homme d'État, hein, et ne pas se trouver, par conséquent, prescrit par ce qu'il ordonne. L'homme d'État, je ne sais pas comment dire ça, absolu, radical, voilà, le souverain, celui qui s'identifierait absolument à la souveraineté, ne peut pas, et on l'a vu maintes fois dans l'histoire, et on le voit encore, ne peut pas supporter, si j'ose dire, que même en son cœur, ça ne vient même pas sur la bouche. J'attaque par exemple l'Inquisition. Voilà. Mais pas seulement. Bon. Ne peut pas supporter que même en son cœur, il soit révoqué par tel ou tel commun. Voilà. Ou que tel ou tel, en son cœur, puisse ne pas se trouver ou se sentir prescrit par ce que l'État dont il est le garant ordonne. De là donc que le pouvoir peut être inquisiteur et qu'il puisse vouloir arracher jusqu'en leur cœur les convictions. Donc on peut peut-être réfléchir sur ce que c'est le pouvoir à partir de la proposition que je vous faisais concernant la définition du commun. Troisième remarque. La position subjective, le sourcement, si j'ose dire, du soi dans ce repère qu'est l'espace réellement éthique, n'est pas sans conséquence de fait, quand bien même ce qui s'en induit manque, comme je vous l'ai fait remarquer au passage, à la célébrité. Si le monde n'est pas aussitôt manifestement dérangé, si de l'expérience éthique, du sourcement du soi dans le repère éthique ne résulte pas aussitôt de manière manifeste un dérangement du monde, il peut tout de même, ce monde, s'en trouver, je l'ai dit déjà, décalé et peu à peu dévié. Alors pour l'admettre, nous avons l'exemple historique de la chrétienté gagnant peu à peu l'Empire romain. Mais il me semble que cette façon d'être en décalage et en déviation est aussi, c'est ça ma troisième remarque, ce qui peut justifier des notions comme celle de désobéissance civile et de résistance. Je prends évidemment le mot résistance non pas au sens psychologique mais au sens politique à l'instant. Je pense autrement dit... j'ai fait un article pour la revue Ligne dans le numéro 67 là-dessus. Comment est-ce qu'on entre en résistance? Il me semble que c'est une expérience éthique au sens commun. Parce que sinon, on ne comprendrait pas que la résistance devienne, je ne sais pas comment dire ça pour un langage qui ne me plaît pas trop, mais enfin pour aller vite, populaire, hein, commune, voilà. Si la résistance est commune, c'est parce qu'en réalité, elle s'appuie sur le fait que ceux qui la rejoignent ne sont pas fermés à l'expérience éthique, ne sont pas des humains d'État. Voilà. Donc, il me semble que la proposition ou les propositions que je vous fais quant à la définition du commun peuvent nous permettre ou vous permettre de comprendre des notions comme celle de désobéissance civile et de résistance. Ces notions supposent la possibilité de mouvement éthique. Éthique, pas moral. Hein. Mouvement éthique. Ça se proclame pas, ça vient pas à la bouche, en tout cas pas d'abord. Voilà. L'attitude subjective qu'elles impliquent dans le commencement même des gestes qu'elles nourrissent, les notions de désobéissance civile et de résistance, l'attitude subjective qu'elles impliquent dans le commencement même des gestes qu'elles nourrissent ensuite, n'est pas la conformité, qui est par définition extérieure, mais, selon l'expression également trouvée chez Kandinsky, une nécessité intérieure. Voilà. Quatrième remarque. Pour Simone Weil, je vous renvoie à l'enracinement. Alors, c'est page 223 dans l'édition que j'ai consultée. Cette affaire d'attitude intérieure qui, comment dire, qui serait la condition de possibilité, dites comme vous voulez, de la désobéissance civile ou de la résistance. Cette affaire d'attitude intérieure, c'est d'abord une attitude intérieure. Ça n'est pas rien pour Simone Weil. Et je vais simplement, ça sera ma quatrième remarque, vous lire ce passage de l'enracinement, page 223. « Bien entendu, écrit Simone Weil, un paysan qui sème du verbe semer, hein, des graines, voilà. Bien entendu, un paysan qui sème doit être attentif à répandre le grain comme il faut et non à se souvenir de leçons apprises à l'école. Mais l'objet de l'attention n'est pas tout le contenu de la pensée. Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette, pense à coudre comme il faut. Mais elle n'oublie pas un instant l'enfant qu'elle porte en elle. Au même moment, quelque part dans un atelier de prison, une condamnée coud en pensant aussi à coudre comme il faut, car elle craint d'être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes font au même instant le même ouvrage et ont l'attention occupée par la même difficulté technique. Il n'y en a pas moins un abîme de différence entre l'un et l'autre travail. Tout le problème social consiste à faire passer les travailleurs de l'une à l'autre de ces deux situations. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il faut que je mette les points sur les i ? C'est pas la peine. Mais la même opération, coudre, n'est pas du tout la même suivant ce qui l'anime intérieurement. Et tout est là. Voilà. Et même, dit Simone Weil, tout le problème social est là. C'est-à-dire que si les sociétés vont mal, c'est parce que c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas... C'est peut-être pas d'abord sur ce qu'elles font, au sens quelles sont les opérations techniques qui sont menées, etc., que c'est coudre et coudre dans les deux cas, mais c'est d'abord ce qui anime l'opération qu'il faut prendre en considération, le cœur de la chose. Le cœur de la chose. Voilà. Et suivant le cœur, ce qui apparemment, extérieurement, est la même chose, est peut-être pas, en fait, du tout la même chose. C'est pas, finalement, la même layette que font la prisonnière et la jeune femme enceinte. Voilà. Bon, à méditer. Et enfin, cinquième remarque. Quoi qu'on invoque beaucoup aujourd'hui le mot éthique, mais dans un sens qui l'assimile, je vous l'ai dit, en fait, à morale, et le fait jouer au bénéfice des subjectivations, on ne reconnaît pas réellement la primauté de l'éthique et de la conscience personnelle. On ne fait que donner le sentiment de cette reconnaissance. On parle beaucoup des valeurs. Le mot éthique n'est pas un mot rare, mais c'est un mot, comment dire, sur lequel, je ne sais pas comment dire ça, moi, une erreur de pensée, si le mot pensée convient, est commise. En fait, bien que le mot soit fréquemment invoqué, ou peut-être parce qu'il est fréquemment invoqué, c'est-à-dire qu'il est devenu un mot social en réalité, voilà ce que je pense, la primauté de l'éthique et de la conscience personnelle, au sens que j'ai essayé de dire ce soir, n'est pas reconnu, il n'y a que l'impression que c'est reconnu qui est là. Olivier Boulnois discute lui-même l'idée qu'on puisse lire Paul dans le sens que je vous ai proposé et qu'on puisse, sans restriction, lui attribuer quelque chose comme une désactivation du droit. Alors, page 112, voici ce qu'il écrit de son livre. « Paul proclame le contraire. Désactivons-nous la loi au moyen de la foi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, nous établissons la loi. » Voilà. Boulnois, je pense que j'ai mal introduit ma remarque. Laissez tomber ce que j'ai dit sur la fréquence du mot « éthique » chez nous. Et, concentrons-nous sur... Sur le propos de Boulnois, discutant qu'on puisse lire Paul dans l'idée que, au fond, le fondement de toute opération juste dans le monde serait le cœur et non pas la loi. Voilà. Et pour appuyer cette lecture, Boulnois cite un passage de l'Épître aux Romains, 3:31. Alors, il traduit par « désactivons » parce qu'en fait, il veut discuter avec Agamben. C'est pas la traduction qui est généralement proposée, mais pourquoi pas. Paul proclame donc le contraire. « Désactivons-nous la loi au moyen de la foi, qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, nous établissons la loi. » Donc, il y aurait l'idée que c'est pas du tout une pensée de la résistance et de la désobéissance civile, hein, au fond, voilà. Boulnois ajoute aussitôt « Giorgio Agamben se sent pour sa part tenu d'expliquer que la loi n'est pas détruite, mais seulement désactivée, donc confirmée, comme l'exception confirme la règle. » Alors, je vais nuancer ce propos de Boulnois, et ça sera ma cinquième remarque, et je m'arrêterai là pour ce soir. Mais avant de nuancer ce propos, je vais ajouter pour ma part qu'Agamben lui-même repère l'ambiguïté qu'il peut y avoir à suspendre, non pas la loi au sens du texte de Paul, qui vise en fait l'attitude légaliste des tenants de la communauté des Hébreux, hein, quand Paul dit « est-ce que nous désactivons la loi au contraire ?» etc. Et en fait, la loi qui est visée, c'est probablement la loi des Hébreux, le rapport des Hébreux à la loi, et Paul dit « mais on ne touche pas à ça ». Elle est toujours établie. Alors Boulnois fait une lecture apparemment plus large en disant certains penseraient, d'après lui, que Paul dit qu'il faut au fond contester la loi, dirait qu'il faut contester la loi au nom de la foi, désobéissance civile, expérience éthique qui vient finalement dévier, troubler l'obédience sociale. Et donc Boulnois défend une position, je ne sais pas comment dire, au fond, qui serait plus dans l'ordre des communautés. Voilà. Et il polémique avec Agamben à ce sujet. Alors d'abord, avant de répondre, si je peux, à Boulnois, je vais dire que Agamben lui-même repère l'ambiguïté qu'il peut y avoir à suspendre non pas la loi au sens strict du texte de Paul, mais le registre du droit en général. Hein, parce que dans tout ce que je vous ai dit, les remarques que je fais, évidemment, l'homme d'État, c'est celui qui ne peut pas supporter qu'il y ait une rupture dans le droit, etc. Bon, et peut-être que ce qui émane du commun, ça serait plutôt d'aller dans ce sens-là. Hein, il faut changer de monde. On ne peut pas changer de monde si on ne change jamais la loi du monde, etc. Il y a là une difficulté dans laquelle se trouvent historiquement les résistances, les obéissances civiles, etc. Bon. Alors, remarque, Agamben a repéré lui-même l'ambiguïté qu'il peut y avoir à suspendre la loi, c'est-à-dire, comprenons-le comme ça, le registre du droit en général. Il y a quelque part dans le livre « Le temps qui reste » d'Agamben une remarque concernant ce qu'ont fait les nazis. Alors c'est ça l'enjeu, en fait, de ma cinquième remarque. Ce qu'ont fait les nazis en promulguant des lois écrites, non pas sur le mode positif d'une autorisation, ni sur le mode négatif d'un interdit, mais sur le mode proprement affolant d'un non-interdit. C'est-à-dire qu'ils ont promulgué des lois disant « il n'est pas interdit que ». Il n'est pas interdit de. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ça ? Voilà. Alors, ça, c'est une situation proprement affolante. Alors, je la signale pour dire que peut-être la polémique qu'essaye de construire Boulnois à l'encontre d'Agamben, elle a quelque chose d'un peu simpliste, si on pense qu'Agamben pense à des situations comme celle-là. Boulnois, d'ailleurs, ajoute au propos que je citais tout à l'heure, à propos d'une lettre probablement inauthentique de Paul, la seconde épître aux Thessaloniciens, il écrit ceci, « To mysterion tes anomias, mot à mot, le mystère de l'anomie, anomos, absence de loi. Jérôme interprète cela comme l'iniquité, le règne d'une injustice radicale et dont nous avons fait le mystère du mal est en grec l'anomie, l'absence de loi. Hein, donc il y a toute une tradition qui pose l'absence de loi comme étant l'injustice, l'iniquité absolue. Donc la question que j'essaye péniblement confusément de construire, c'est celle de sa. Bon, c'est évidemment lié au Comnon et à sa suite. Est-ce qu'on peut changer le monde sans changer la loi du monde, ou sans changer les lois ? Voilà. Est-ce que c'est ça l'enjeu de l'expérience de l'urgence au bout du compte ? Est-ce que c'est de suspendre les lois, de désobéir aux lois ? Alors apparemment, le Comnon ne dit pas exactement cela. Qu'est-ce qui se joue au juste ? Alors, on peut penser, devant l'excès de pouvoir, la souveraineté absolue dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est inquisitrice, on peut penser que, au fond, la désobéissance civile, la résistance sont justifiées par rapport à ça. Mais on peut aussi penser que la rupture du droit, l'absence du droit, c'est l'iniquité absolue. Voilà. Alors je pense qu'il faut interpréter la désobéissance civile et la résistance dont j'essayais de vous parler il y a quelques minutes dans ce cadre de questions, avec ce cadre de questions en tête. Elle ne parle pas, à mon avis, pour qu'il n'y ait plus de loi, mais tout en impliquant de penser que la conformité à un ordre légalisé n'est pas la seule justification de l'agir humain, elles admettent qu'il peut être fait appel d'une loi, que l'ordre des subjectivations est historique, et que, pour reprendre la formule de Paul dite en conclusion du passage que je citais plus haut, la figure du monde passe, que je citais en fait la semaine dernière, la figure du monde passe. Il me semble que, enfin, après toute cette méditation que je crains confuse, en tout cas dans sa présentation de ce soir. Bon, je dirais que la méditation des textes de Paul m'amène, d'une certaine manière, à soutenir une certaine compréhension de la désobéissance civile et de la résistance, à justifier, à trouver justifié, d'une certaine manière, des ruptures dans le droit, ou certaines ruptures dans le droit, mais en même temps, je ne soutiens pas qu'une vie humaine puisse perdurer en l'absence de toute loi. Voilà. Ça serait, d'accord avec Boulnois ou Jérôme, cité par Boulnois là-dessus, l'iniquité. Mais je fais remarquer donc, justement, que la désobéissance civile et la résistance ne parlent pas pour qu'il n'y ait plus de loi, mais elles impliquent de penser que la conformité à un ordre légalisé n'est pas la seule justification de l'agir humain, et Paul non plus. Je pense que c'est ça qui... En tout cas, c'est ce qu'il faut penser si on veut aller vers une compréhension de ce mot, de cette question « qu'est-ce que faire dans l'urgence ?» il faut admettre que ce qui peut être fait implique, comme l'une de ces conditions de possibilité, de faire appel à des lois d'ordre, de faire appel, pas à des lois d'ordre, de faire appel de lois d'ordre, pardon. Ça implique de penser que l'ordre des subjectivations est lui-même historique, autrement dit que le monde peut changer, et que, pour reprendre la formule de Paul que je citais en exergue de la séance dernière, la figure du monde passe. Les annonces de la subjectivation et la subjectivation elle-même ont une logique utile, sur fond de quoi, l'expérience éthique se détache elle-même, y faisant différence. Donc c'est ça ma proposition, je vais m'arrêter là-dessus, ma cinquième proposition. C'est-à-dire finalement, l'expérience éthique, elle est peut-être ce qui permet qu'il y ait de l'historicité dans un monde légal. Hein, voilà, disons les choses comme ça. Et elle-même ne peut exister, ne peut se détacher comme source de quelque chose que sur le fond, en dernière analyse utile des lois. Elles y font différence, à écrire avec un A selon la graphie proposée de Derrida. Donc c'est ça que je dirais pour finir. Je pense que j'ai été très confus, je suis pas du tout content de moi, mais je dirais que le commun, c'est tel que j'ai essayé de vous le proposer ce soir. C'est ce qui fait que le monde peut différer. Voilà. C'est ce qui fait que le monde peut différer. La différence, cette différence n'impliquant pas la disparition de tout ordre légal, hein, mais impliquant en revanche l'historicité de cet ordre. Bon, voilà. Le reste à discuter autant que vous voudrez. Donc ce soir, je tiens la montre. Hein. C'est déjà ça. Hein. Alors, il faut me dire s'il y a des questions.
Pour l'instant, non. Il n'y a pas.
D'accord. Quel est le lien entre le, je dis là tout fort pour que le tout le monde quel est le lien entre le cœur et le commun? Je dirais que, alors d'abord, dans les textes de Paul, c'est épars. D'abord, il n'y a pas le mot commun, et puis ensuite c'est assez difficile à lire parce que les choses sont assez éparpillées. Il y a des phrases, moi je trouve fulgurantes à certains moments, puis à d'autres moments je comprends pas. Bon, en tout cas, le mot commun, c'est moi qui l'introduis dans l'affaire. Je l'introduis dans l'affaire en disant que je pour des raisons que je ne m'explique pas complètement, mais enfin, je préfère ce mot à celui d'universel que propose Badiou. Mais en même temps, de même que Badiou le propose en disant au fond que ce mot fait dialectique avec l'ordre des communautés. Les communautés ne sont pas universelles. La proclamation de l'universalité de parler pour le tout des humains met l'ordre des communautés à mal, engage une dialectique avec les États, pour le dire vite, les lois particulières, pour le dire vite. Donc moi, je préfère penser ça non pas avec le mot universel, mais le mot commun. Et pour répondre à votre question, une fois que j'ai fait la proposition de ce mot et que je l'ai défini vaille que vaille, je pense que le mot de cœur qui lui se trouve chez Paul est une métaphore du commun. Nous sommes communs en tant que... je ne sais pas comment dire ça, j'ai un verbe en tête que j'aime. En tant que nous déportons, si j'ose dire, notre personnalité du côté du cœur. Lequel lui-même est éthique, d'après moi. C'est-à-dire, c'est pas... c'est pas en se trouvant dans le cœur de l'humanité qu'on est chacun, que chacun est, c'est pas en se trouvant dans le cœur de l'humanité que chacun est, que chacun trouvera l'ordre de sa conduite, au sens où il y aurait des mots pour le dire, des phrases qui lui diraient « c'est ça qu'il faut que tu fasses », etc. Ce cœur est indécis. Mais en effet, pour être simple, par rapport à votre question... je fais fonctionner dans toute mon analyse le cœur paulinien comme une métaphore du commun. Comme l'une des métaphores du commun. Il faut faire aussi les raisonnements dans l'autre sens, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de cœur ? Voilà, concrétiser ça, voilà. Manquer de cœur. Voilà. Quand est-ce qu'on se conduit sans cœur ?
Il y a une question de Yves Citon.
Oui. Il la pose ?
Oui.
Ah oui ? Oui, je t'entends légèrement.
Ok, je vais parler très fort.
Ah, ça y est, je t'entends. Et en plus, je te vois.
Super. Merci beaucoup, Pierre-Damien. C'était vraiment très, très, très sollicité, plein de choses. Je vais proposer... une question autour de ce que tu nous dis du commun. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure j'hallucinais, je projetais des choses, ou dans quelle mesure j'ai compris ce que tu voulais nous dire, mais ça m'intéressait que tu commences avec des techniques déviables, dont l'opposé serait la centrale nucléaire, donc quelque chose qui pourrait être de l'ordre des infrastructures, mais des infrastructures qui seraient acceptables dans la mesure où il y aurait du vide. La dernière fois, on parlait de jeu dedans, qui permettrait justement cette déviation. Ensuite, tu parlais de la langue ou du langage qui, lui aussi, a des vides qu'on explore à travers la parole, qu'on découvre, qui permettent justement une évolution à devenir, etc., etc. Et il me semble que tu... nous disait que le commun, c'était justement ce vide, ce manque, cet espace pour dévier. Et si on met l'infrastructure là-dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas en fait deux communs ? Un commun qui est quand même la langue, parce que moi, il y a toute une tradition qui nous dit quand même que la langue, c'est justement une très belle image du commun, qui n'est ni dans ma tête, ni dans la tienne, ni dans les dictionnaires, ni rien. Donc de dire qu'il y a quand même du commun dans la langue, pas seulement parce qu'elle a des trous, mais aussi parce qu'elle a une positivité ou une, je sais pas, une présence, moi je dirais justement une sorte d'infrastructure. Et est-ce que ce que tu nous définis comme le commun, c'est pas une façon de voir le commun qui présuppose une autre façon, je dirais, infrastructurelle de voir le commun? Et ça serait la première question. Enfin, c'est la question en fait sur est-ce qu'il y a deux communs, ou comment tu appellerais l'infrastructure en tant qu'elle est quand même quelque chose, pas qu'elle est que du vide, elle est quand même quelque chose, et la langue c'est quand même quelque chose, et ça, moi j'avais l'habitude d'appeler ça le commun, Plutôt que ces manques ou ces trous, ces jeux qui permettent justement que là on a tous en commun et qui nous permettent peut-être de venir ensemble. Et la suggestion que je ferais, ou peut-être quelque chose dont on reparlera la semaine prochaine, c'est il y a deux penseurs américains, nord-américains, qui s'appellent Fred Moten et Stefano Harney, qui ont fait un livre qui a été traduit par les sous-communs, Undercommons. Undercommons, les sous-communs, et leur deuxième livre s'appelle All Incomplete. Tout incomplète ou tous incomplètes. Et quand tu parlais toute la demi-heure à partir du moment où tu as parlé de nous sommes communs en tant que nous sommes démunis, la critique de l'homme d'État et du souverain, ça résonnait tellement fort avec Moten et Harney, qui, moi, on est en train de les traduire maintenant tellement c'est beau, etc. Et je me demande si cette catégorie du sous-commun, tu l'as déjà vue, ou si la notion de l'incomplétude serait pas, est-ce que c'est quelque chose que tu, autour de laquelle tu tournes, et je me tais là, parce qu'on hésite à traduire le livre All Incomplete par le partage des incomplétudes. Et je ne sais pas si ces mots-là, partage des incomplétudes, ça peut résonner avec quelque chose que tu dis. Et je le tais.
Alors, incomplétude, je commence par là, je commence par la fin. Incomplétude, je vais le dire bêtement, si tu permets, ça me plaît. Parce que si je reste dans les références que j'avais en tête ce soir, l'infance, évidemment, il est incomplet. L'être humain démuni, il lui manque. D'ailleurs, à la limite, on pourrait dire de quoi persister dans la vie. Donc, en fait, je ne considère pas que ce que j'ai essayé de dire ce soir, le vide, le commun, etc., soit suffisant pour que l'humanité perdure. Je ne pense pas ça. Bon, l'incomplétude, c'est un mot que je trouve intéressant aussi pour la raison qu'il est pas prétentieux. Il n'est pas, par définition, voilà. Sous commun, ça me gêne davantage. Je connais pas le texte auquel tu viens de faire référence, mais j'ai un peu de mal a priori avec l'idée. Parce que qu'est-ce que ça veut dire sous commun, en deçà?
Peut-être je te dis, c'est très compliqué, hein. Moi, j'ai toujours pas compris ce qu'ils appellent les sous-commons. Undercommons, c'est le titre de leur premier livre, et j'ai toujours pas compris, je peux pas donner une définition, mais c'est aussi parce que c'est des poètes qui défient les définitions, mais eux, ils viennent de la tradition africaine, américaine, le Black Radical Tradition, et l'emblème historique des sous-commons, c'est les humains transformés en esclaves, apportés, sortis de la cale esclavagiste, dont ils ne sont jamais vraiment sortis parce qu'aujourd'hui ils sont emprisonnés, on les traite comme des criminels même quand ils sont dehors, etc., etc. Et c'est, tu parlais de démuni, et c'est vraiment ça, c'est la figure du démuni, démuni à tel point qu'il ne peut pas se considérer comme un individu, que toutes nos sociétés blanches sont construites autour d'une complétude, d'une souveraineté individuelle, et que les sous-communs, c'est ceux qui, historiquement, ont subi une dénégation de l'individualité, mais qui, à partir de ça, ont construit une socialité alternative, une socialité qui est justement antérieure à l'individualisation. Oui. À l'individualité. Et donc là, voilà, c'est le résumé brutal des sous-communs.
Ce que je comprends avec ce que tu dis là, c'est que, pour moi, choisir ce vocable-là, sous commun, c'est en fait se placer du point de vue des communautés particulières qui sont précisément ce qu'on essaye de mettre en cause. C'est-à-dire, ce sont des sous communs du point de vue des tenants de ceux que j'ai appelés dans mon exposé de ce soir les tenants des communautés particulières, ceux qui en sont les tenants. Alors pour des raisons évidemment qu'il faut étudier et que bien sûr je ne soutiens pas. Ces communautés produisent, si j'ose dire, des esclaves, disons les choses comme ça. Mais le commun auquel j'essaye de penser et auquel j'essaierai de faire de continuer à faire instaurer dans les séances qui viennent, Alors, si on veut dire, si on dit sous, au sens où on dirait le thumos de Platon, il y a des couches qui se sont mises par-dessus, et puis thumos, et donc il se trouve sous les couches sédimentaires, supplémentaires, contestables, etc. Bon, si c'est ça.
Sous-jacent.
Tous ?
Sous-jacent.
Alors, sous-jacent, ouais, c'est ou latent. Le commun est latent. Alors ça, pour moi, ça va mieux. Voilà, il y a une latence, mais le mot sous en français me semble introduire l'idée d'une hiérarchie qui me gêne. Voilà.
D'accord, je m'arrête, on discutera plus tard, je ne veux pas prendre tout l'espace. Merci beaucoup. Donc,
Sinon, je voulais dire quand même ce que j'ai noté à propos de la langue. Alors moi aussi, hein, je suis plus âgé que toi, hein, j'ai la génération linguistique, enfin, etc. Bon, et c'était une découverte fabuleuse, toutes ces choses-là. Bon, j'ai vieilli, j'espère pas trop mal, mais vieilli quand même. Et en fait, je me dis... Alors bon, le texte de Merleau-Ponty, je l'ai lu très très jeune. Et ça m'a tout de suite alerté sur ce qui était peut-être un problème de la linguistique, qu'il repère lui-même comme tel, d'ailleurs. Et pour aller vite par rapport à l'observation que tu faisais, je dirais, moi, que le commun de la langue, c'est qu'elle est parlable. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la structure de la langue qui peut être définie comme commune, ou alors abstraitement, ou alors de façon très abstraite. Toutes les langues ont une structure, toutes les langues ont une syntaxe, donc, bien sûr. Mais telle langue n'a pas la syntaxe de telle autre, et donc elle diverge concrètement. En revanche, ce qui leur est commun, c'est qu'elles sont toutes parlables, toutes travaillables, toutes... voilà. C'est ça que je te proposerai en réponse.
D'accord.
Sur la langue dont tu parles.
Pardon ?
Sur la langue en question, puisque tu disais que finalement c'était le commun qui permettait de combler les trous, enfin de combler, d'amener, d'enrichir, de dévier, elle est aussi constituée par le commun quelque part.
La langue ?
Ouais. Oui.
Oui, elle est
faite aussi de ça, si je suis ton.
Elle est faite et elle vit d'être incessamment parlée. Alors, en fait, il y a une façon de parler apparemment les langues et en fait de ne pas les parler, qui est simplement de produire des messages à partir de ce qu'elles contiennent déjà de propositions. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est ça que Merleau-Ponty... moi, je comprends comme ça. Souvent, on pense que pour parler, comme on dit, ce qui n'est pas parler en son sens, mais il faut qu'on sache ce qu'on veut dire. Hein, et donc, le passage à la langue serait, en fait, il y aurait déjà une langue intérieure qui aurait travaillé, et puis simplement... On met en haute voix ce qu'on s'est déjà dit intérieurement. Et donc Merleau-Ponty dit que si on pense comme ça, on n'arrive pas à comprendre que les langues soient parlées au sens fort du terme, c'est-à-dire finalement modifiées, évoluées, qu'elles évoluent à la langue. Et donc la proposition qu'il fait, c'est de dire il faut penser à l'inverse, ce qui semble évident, que quand on parle, c'est parce qu'on ne sait pas ni quoi dire, ni comment le dire, a fortiori, voilà. Et que c'est se jeter dans l'expérience de la langue qui nous fait trouver ce que... qui remplit le vide, voilà. Mais s'il n'y a pas le vide, on parlera pas vraiment. On continuera... enfin, il me semble qu'aujourd'hui, on est beaucoup atteint par ça. C'est-à-dire, les uns et les autres ne font que dire des mots qui ont déjà été dits autour d'eux, dans le sens où ça a été dit. Enfin, et la langue n'est pas... la langue n'est d'ailleurs ni respectée ni travaillée dans cette affaire. Et donc, je suggère de pousser l'analyse et de dire, mais en fait, nous avons peut-être besoin pour que ce monde... si ce monde doit être modifié, de faire le vide des phrases faites, des mots tels qu'ils s'emploient, voilà. C'est-à-dire que finalement parler, ça n'est pas montrer qu'on peut s'intégrer dans une communauté de discours. Parler, c'est produire une phrase qui n'avait pas été entendue jusque-là, voilà. Parce qu'elle n'avait pas été proférée non plus. Je ne sais pas si je réponds, mais...
Si.
En fait, moi, je ne sais pas si j'ai vraiment une question, mais il y a quelque chose à laquelle qui m'est venu à l'esprit en écoutant notamment vos remarques, parce que je sais aussi que vous avez... que le mot « peuple » n'est pas n'importe quel mot pour vous aussi. Et en fait... alors ça va être un peu décousu, mais c'est pas grave.
Bah, ça veut pas être pire que moi. Hein.
Je vais le dire. En fait, c'est surtout peut-être votre deuxième remarque sur justement le caractère errant, infaillible du commun, qui lui vient, si j'ai bien suivi, compris... D'un silence intérieur où il y a résonance, donc en fait d'une éthique, en fait, une éthique. Et que j'ai aussi cette phrase de Rousseau qui dit que c'est le sentiment qui conduit l'homme, et que vous avez précédemment parlé aussi de sentiment, donc tout ça est sûrement en lien d'une manière ou d'une autre. Je me suis quand même demandé si. Et comme la résistance politique est une conduite, on pourrait aussi l'entendre comme ça, est-ce qu'un peuple, c'est pas, alors comment dire, est-ce que c'est pas la réunion, la rencontre, la conjugaison de ce commun, ce commun errant, faillible, mais pourtant, qui peut pourtant résister politiquement à un moment donné, et puis comme la figure du monde s'est passée.
Alors, je peux répondre là? Non.
Attendez un peu. Si, si, j'ai fini.
Alors, je vais prendre des notes. Parce
non,
que...
non, j'ai fini. C'est l'essentiel, en fait. Mais c'est aussi, enfin, c'est vraiment l'enchaînement des cinq remarques, en fait, parce que vous avez dit, c'est pas. C'est pas la soudure qui vous intéresse comme chez Stengers, mais donc il y a quand même l'idée de quelque chose qui à un moment se met ensemble, que enfin, voilà, c'est tout ça à la fois qui je me suis rappelé aussi cette phrase de Paul Klee que vous rappelez tout le temps, enfin que vous nous avez rappelé en tout cas souvent, un peuple manque.
Ah oui, j'allais vous répondre par là, donc c'est bien.
Non, mais en fait, voilà, je me suis posé cette question-là parce que c'est vrai que dans la figure du peuple, il y a aussi cette puissance en fait de quelque chose qui vient d'un intérieur aussi. Voilà. Et je me suis quand même posé la question s'il y a un rapport entre sentiment et éthique. Mais c'est vrai que voilà, il y a du peuple qui.
Alors je vais commencer par ce qui est apparemment pas central dans votre remarque, c'est la soudure. Alors je sais pas si c'était clair ce passage-là, mais disons, je suis comment dire, c'est pas intrigué, ça m'intéresse beaucoup ce que j'ai compris de Bruno Latour et de Isabelle Saint-Gers là-dessus, c'est-à-dire avec cette expression composée. Bruno Latour, il insistait beaucoup là-dessus à la toute fin. De sa vie, le fait qu'il faut composer le commun, faire commun, donc ce qui suppose qu'il n'est pas déjà là, le commun, puisqu'il faut le faire, le composer. Bon. Et puis dans cette lecture plus récente d'Isabelle Saint-Gers, j'ai trouvé ce mot soudure, qu'elle emprunte, je crois, à Whitehead, si je ne connais pas du tout Whitehead, enfin, ou très peu. Donc je me dis simplement, mais est-ce que c'est pas aller un peu vite de penser tout de suite en termes d'éléments ou de parties qu'il faudrait souder, donc des communautés différentes qu'il faudrait souder, aller vers une sorte de cosmopolitisme, d'ailleurs chez elle ou chez Latour, extrêmement élargi, puisqu'il intègre pas simplement les sociétés humaines, mais toute forme de vie, enfin bon, bref. Et je me dis, une espèce de, à cause de ce que je lis, ou pas seulement, il y a d'autres choses dont je parlerai petit à petit, j'ai un doute, et je me dis, et si ça... est-ce qu'on ne va pas trop vite en parlant de composer, de faire, de souder, etc. Est-ce que la question première, ça n'est pas de faire le vide en nous ? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il nous faudrait, ce qui serait mieux, voilà, pour reprendre cette expression, dans un premier temps, j'essaie de dire ça ce soir, hein, il y a un premier temps, puis après, il y aura une suite, dans un premier temps, de faire le vide, c'est-à-dire, ça veut dire... non pas de nous projeter dans un état d'être démuni, mais de nous rappeler, puisque je ne fais pas composition, je ne vais pas, hein, je pense à quelque chose qui est déjà arrivé, qui m'est déjà arrivé. Par hypothèse, l'expérience de l'urgence dans le moment du séminaire où je suis maintenant, elle a déjà eu lieu. Voilà, donc il m'est arrivé quelque chose... Et en fait, il s'agit d'avoir la mémoire des situations dans lesquelles on a été démuni. Et si on y pense, si chacun d'entre nous pense à tel ou tel accident de sa vie dans lequel il s'est trouvé démuni, si c'était le cas, mais ça allait toujours quelque part, puisqu'on a tous été enfants avant que d'être homme, pour reprendre la phrase célèbre... Là, le commun, il est là déjà. Il est là déjà. C'est parce qu'on ne pense pas à la faiblesse de l'humanité, on pense toujours en termes de force, qu'on a des problèmes entre communautés. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ce mot que je trouve assez fort, mais déblayons intérieurement pour commencer, autant que possible. Voilà. C'est-à-dire, essayons de nous remettre, ça nous est sûrement arrivé... si on a le sens de l'urgence, etc., dans une situation où on a été démuni. Voilà. Et j'essaierai de trouver, par la suite, des situations pas du tout, comment dire, qui remettent pas, qui font pas exploser le monde, mais dans lesquelles le sujet subjectivé est, dans ses subjectivations même, démuni. Voilà. Je propose qu'on, pas seulement qu'on se projette vers un avenir, mais qu'on se retourne sur les moments où on a été naïf. Voilà. Sur les moments de naïveté que, en réalité, nous ne manquons pas, je pense, dont nous ne manquons pas en réalité, mais à quoi, le plus souvent, pour nous tenir droit comme des humains, on ne veut pas penser. Bon. Alors ensuite, en effet, vous l'avez rappelé, j'attache de l'importance à cette phrase de clé en corrigeant un tout petit peu la formule de Deleuze. Hein, c'est pas le peuple manque, mais un peuple manque, hein, chez Paul Klee. Et donc l'article est là, et j'ai vérifié dans le texte allemand, hein, l'article est indéfini. Donc peuple n'est pas un mot plein de sens, n'est pas un mot. Il n'y a pas d'attribut qui puisse remplir. Ce que peuple signifie ou veut dire, parce que peuple est le nom d'un manquant, de toute façon. Penser que le peuple existe déjà et le gouverner, etc., c'est manquer à la notion même de peuple. Voilà. En tout cas, tel que je la comprends. Voilà. Un peuple manque. Et justement, ce que disait Paul Klee au Bauhaus dans sa conférence, c'est que il s'agit de faire et de faire quelque chose alors même qu'il n'y a pas de peuple puisqu'il est manquant pour soutenir ce faire. Voilà. Donc il ne s'agit pas de s'appuyer sur quelque idée positive de peuple que ce soit pour faire quelque chose. Voilà. Donc on peut traduire ça très simplement, il ne s'agit pas de faire quelque chose de populaire. On peut traduire aussi « il ne s'agit pas de faire pour le peuple », etc. Il s'agit de faire en sachant que, au fond, ce pourquoi on fait ce qu'on fait manque. Voilà. J'avais interprété ça aussi avec la notion de portée, mais ça j'y reviendrai dans les séances suivantes. C'est-à-dire, on pense que pour faire quelque chose, il faut être soutenu. Par exemple, une action politique, ce qui pourrait la soutenir, c'est qu'elle est portée par un peuple. Bon, ben, le peuple manque. Donc il y a l'idée que pour faire quelque chose, il faudrait être soutenu comme un été soutient une construction. Voilà. Mais porter peut aussi, et je pense que dans les pensées de Paul Klee, c'est de ça qu'il s'agissait, quand il tourne autour de cette phrase-là, un peuple manque, hein, c'est porter au sens de la femelle qui met bas, hein, la portée. Donc c'est quelque chose qui est en gestation. Voilà. Et j'irai plutôt chercher, quand je passerai à l'analyse de faire, de ce côté-là. Non pas chercher ce qui, peut soutenir en termes de force ce qu'on se propose de faire, mais regarder quelles sont les situations porteuses au sens de matriciel. Voilà. J'y reviendrai. Voilà. Et puis bon, je reviendrai dans 15 jours avec, enfin, j'espère que j'y penserai, avec une page du livre d'Agamben, Le temps qui reste, dont je parlais d'ailleurs à Cédric, il ne le sait pas, mais en fait, c'est de cette page-là que je lui parlais avant la séance, parce qu'on s'est vu, on a un peu discuté. Donc c'est une interview de Michel Foucault par Jacques Rancière Jeune. Donc c'est une interview qui doit dater des années, il y a longtemps. Et donc Agamben cite ça, et justement s'est mis en rapport, Foucault met un rapport avec un peuple manque, la phrase de Deleuze, etc. Et il la commente, alors il dit pas peuple, il dit plèbe, Foucault, et il dit la plèbe en moi c'est, et bon... on tombe sur ce que je vous ai dit, sur ce que je vous ai dit ce soir, et je pense que chez Foucault ça veut dire, et ça veut dire pas seulement chez le dernier Foucault, mais depuis longtemps, que quoi qu'on dise, Foucault aura toujours misé sur l'existence d'un sujet, je sais pas, alors je veux dire en deçà, latent, pour reprendre la conversation, la discussion avec Yves Citon, un sujet latent. En deçà, sous les subjectivations. Et qu'il nomme dans cette conversation avec Jacques Rancière la plèbe en moi. Bon, ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Et c'est ça qui est commun. Moi, c'est ça que j'ai essayé de dire ce soir. Voilà. Ce qui est commun, c'est pas l'acquisition des situations sociales plus ou moins avantageuses, etc. Là où nous sommes communs, c'est en tant qu'il y a de la plèbe en chacun d'entre nous. Alors, on veut le voir, le savoir ou pas. Voilà. On peut se défendre de se trouver plébéien, au fond. Voilà. Et ça donne des hommes d'État, pour aller vite, pour raccourcir toute mon analyse. Voilà. Des guerriers, des conquérants. Et sauf que les guerriers, les conquérants, etc., dans la suite, je voudrais aller les chercher, pas seulement dans le monde politique, mais dans le monde que j'ai appelé rapidement en commençant ce soir éco-technique, hein, ou techno-économique. Voilà. Là aussi, il y a des conquérants. Et même là, surtout, peut-être. Là, pour commencer, peut-être. Et ceux-là, ils ne font pas de place aux plébéiens en eux, par définition.
Est-ce que tu pourrais revenir, parce que je n'arrive pas à retrouver dans mes notes si tu en as déjà parlé dans ces termes ce soir, enfin, comment est-ce que tu articules commun et vide?
Ah. Alors, je l'articule, excuse-moi, je t'ai coupé peut-être la parole. Je l'articule au sens strict du mot. C'est une articulation, c'est-à-dire mon avant-bras est articulé sur mon bras et c'est donc pas la même chose.
Oui, voilà.
Donc, ça se déduit pas l'un de l'autre. C'est moi qui ai dit, j'espère que j'ai dit à ce moment-là, je vous fais une proposition. C'est-à-dire, ça ne va pas de soi. D'ailleurs, c'est pas chez Badiou, c'est pas, etc. Bon, j'amène ça. Et je dis, au fond, et si on faisait une relation entre, comment tu dis, le commun et...
et le vide.
Et voilà. Alors, d'abord, j'amène le commun. Voilà, je dis, ce que Badiou appelle universel, moi, je propose de l'appeler commun, pour voir, on verra ce que ça donne, alors, voyons, bon. Et puis, à un autre moment, je fais le même coup. Et je dis, ça me fait penser... Alors, évidemment, ça pose un problème de méthode, parce que le fil est ténu. Hein, en fait, si vous aviez... Si on avait tous les textes que j'ai sous les yeux, que j'ai écrits pour le séminaire, on verrait qu'il y a des citations qui sont reprises. Donc il y a des circulations. Quand Simone Veil commente Paul, il lui vient la phrase, quand elle n'est pas loin de le commenter, en tout cas, la phrase, on est comme... Le langage, c'est comme les murs d'une prison. Bon... donc je m'autorise de rapprochement de ce type-là, puis à un moment je fais une articulation, et en effet c'est une articulation, et je dis mais finalement peut-être que le commun, ce qu'il y a de plus commun, c'est le certain vide en nous à combler par des mots. Voilà. Et au fond, la justesse de la démarche, si elle existe, se démontre par le fait même de la démarche. Si une fois que j'ai parlé, vous dites, ah ouais, finalement, il y a quelque chose à voir là-dedans. Bon, je pense que j'ai fait mon travail. J'ai rien prouvé. Hein, mais j'espère que vous avoir dit plusieurs fois ce soir, j'essaye de vous faire penser que... Voilà. Ça ne veut pas dire j'ai raison. Ça ne veut pas dire j'ai prouvé. Mais cet ajointement de notions que je bricole... Une fois que je l'ai fait, l'ajointement, si ça donne à penser, alors c'est déjà pas mal. C'est sûr que c'est une méthode. C'est sûr que c'est une méthode. C'est une méthode de funambule, en fait. Hein. Ça tient. Et tu as mis le doigt sur un point faible au niveau. S'il s'agissait d'être fort dans l'argumentation, c'est pas fort. Mais comme je ne cherche pas la force...
Non, mais c'était aussi...
Mais je cherche à... je cherche à ébranler, à inquiéter des équilibres. Voilà.
Non, mais c'est parce que depuis le début du séminaire aussi, il y a comme une... Je ne sais pas comment appeler ça... Une discussion avec Badiou aussi. Et sachant que bon, c'est pas rien pour lui de...
Oui, oui. L'universel, c'est sûr. J'ai beaucoup de respect pour le texte de Badiou. D'ailleurs, pas seulement celui-là. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut lire. Mon problème avec le mot universel tient à une remarque, d'ailleurs, qui vient d'une discussion de Badiou avec son compère. Ah mince, son nom m'échappe. Qui fait remarquer que donc universel, littéralement, ça veut dire tourner vers l'un, uni versus tourner vers l'un, et c'est une traduction qui a été proposée par les pères de l'Église au moment où on passait du grec au latin pour le cat holon de Paul, catholique, d'où vient le mot catholique, qui veut dire selon le tout. Alors moi, il me semble que c'est pas la même chose de penser selon le tout et de penser tourner vers l'un. Alors, ça ne met pas en cause la façon dont Badiou, pour sa part, dans la logique de sa pensée, définit l'universel, le l'un, auquel c'est une notion très importante chez lui. Et donc, moi, je n'arrive pas à être tout à fait là-dedans, parce que je pense qu'il est beaucoup plus fort que moi, Badiou. Mais moi, c'est commencer à deux. Moi, c'est pas un, c'est deux. Mon chiffre de base. Et donc, le tourner vers l'un, dans tout, il n'y a pas un, quoi. Pour faire un tout, il faut qu'il y ait plusieurs. Donc, selon le tout, universel, c'est pas la même chose. Alors, si je lis Paul en grec, je ne peux pas dire universel, puisque c'est un mot latin qu'il n'emploie pas. Et donc, donc, je dis ce que je dis. Voilà. Mais la pluralité, enfin, c'est quelque part dans la discussion avec Yves, ça y est, hein, ou peut-être dans les considérations plus ou moins embarrassées de la fin, c'est-à-dire, il va bien falloir à un moment donné que je m'explique sur le fait qu'il y a des communautés. Et c'est pour ça que la remarque finale, je pense que j'ai très mal introduite, elle porte l'attention là-dessus, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer au moins une humanité qui ne serait pas dans la loi, dans de la loi. Voilà. Et en même temps, il faut imaginer... Et alors, l'humanité qui est dans de la loi, elle est plurielle. Il y a des lois, il y a des langues, etc. Mais en même temps, il faut pouvoir imaginer que les figures de la loi passent, comme dit Paul, et il faut bien qu'on puisse expliquer cela. Et ce qui l'explique, c'est que pour moi, enfin, dans le cadre de la pensée paulinienne, c'est le commun. C'est le commun, c'est le repère éthique dans lequel, en réalité, celui qui en a fait l'expérience sait qu'il ne lui est rien prescrit d'avance. Bon, voilà. Et ça c'est commun. Voilà. C'est commun à toutes les en deçà, finalement, on va revenir à la question du sous, en deçà des lois diverses ou des diversités légales. Voilà. Pardon.
C'était une petite interrogation. Pas vraiment sur cette question-là, mais sur le mot décalage que vous avez utilisé au moment du faire. Je voulais vous demander comment vous l'aviez choisi, ce terme. Je m'explique, parce que en fait, je l'entends plutôt comme une chose qui serait un peu petite, en fait, ou un peu polie, qui ne se démarquerait pas vraiment. C'est un mot qui est beaucoup utilisé pour les objets artistiques. Quand on dit que quelque chose est décalé, ça reste... Ça n'a rien de moderne dans ce que vous décriviez d'une chose, enfin, comme pour la peinture, comme ça, qui... C'est encore de la peinture, mais c'en est plus. Enfin...
En fait, j'ai pris le mot décalage pour cette raison, que c'est un mot faible, tout simplement, que c'est pas décalé, c'est pas grandiose, c'est pas célèbre, c'est pas illustre, enfin, bon, je reprends tous les mots, et c'est apporté. Apporter du commun, pour reprendre même le mot dans son sens banal. Décalage après décalage, ça finit éventuellement par changer la route. Hein, petit à petit...
Voilà. Dévie, vous avez dit.
Oui. Voilà, ça dévie. Voilà. Après, bon, il y a peut-être une raison, un jeu de mots plus profond, c'est que sauf erreur de ma part, atelier, c'est à tel, ça a à voir avec les calages. Mmh. C'est-à-dire le travail d'atelier, c'est l'art du calage dans les vieux mots. Et donc, sûrement quelque part, je fais un rapprochement entre le décalage et une taille de travail qui est accessible dans des ateliers. Voilà. Le travail à la chaîne, dans sa conception même, ça n'est pas de l'atelier. C'est organiser le travail de telle sorte que ceux qui sont à la tâche n'aient plus rien à caler ou à décaler. Ou que le décalage devienne catastrophique. Voilà. Ouais, non, je pense à des, moi, je pense à des choses que j'ai vues quand j'étais très jeune dans des usines où j'ai vu des gens enchaînés. J'ai vu quelqu'un enchaîné à une presse parce que pour des questions de sécurité, quand la presse tombait, il s'agissait de fabriquer des bacs en plastique. Il fallait pas qu'il ait les mains sous la presse, sinon évidemment il les perdait. Et donc il y avait un dispositif mécanique auquel il était enchaîné, qui lui retirait les bras en arrière, et ça 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Alors le travail de la presse était super calé, voilà. Au point que ça ne tolérait aucun décalage du côté du côté du travailleur, et que comme l'humain risque toujours, en fait, d'être là, il est là, l'humain, dans le décalage, eh bien, on l'enchaîne. Et on l'enchaîne littéralement. Cette expérience m'a bouleversé pour le restant de mes jours. Voilà. Et j'en aurais presque les larmes aux yeux, là encore maintenant. Je trouve ça épouvantable. Et pourtant, alors, je pense que cette situation que je décris, que j'ai, j'ai vu de mes yeux vus... je crains que dans ce que j'appelle l'éco-technicité du monde, il y en ait, voilà, pas une infinité. Mais enfin, c'est ça le problème. Voilà. Plus, enfin, au moins autant que la politique. C'est bon.
Oui.
Il n'y a personne.
Il y a un mot de Jérémy qui dit merci, au revoir. Il n'y a pas de questions plus.
Quelles sont les dates des prochaines séances? Parce que je crois que moi j'ai
mal. Il reste deux séances, donc, chacune par quinzaine.
Ah, d'accord.
Donc c'est le 29 et le 12.
Voilà, 29 et 12. 29 mars et 12 avril.
Il n'y a pas d'autres messages.
D'accord. Bien, on se dit au revoir. Je dis au revoir. Je sais pas si on me voit.
Si, je pense.
Ah,
que...
si.
Oui.
Parce que moi j'ai une image bloquée, donc.
Non, c'est bon.
Je salue amicalement tous ceux, toutes celles qui sont à distance et je vous remercie pour votre patience. Voilà.
Yves Citon vous dit merci, vous fait un signe.
D'accord. Mmh.